Moi, ce que je dis toujours, c'est que les jeunes, ils ne devraient pas y en avoir. Et puis, c'est tout.
Je veux dire à tous nos amis qui partent bientôt en vacances de ne pas oublier de mettre dans leur bagage une brosse à dents neuve.
Vive la cuisinière à tout continu.
Terminons ce tour d'horizon par une note réconfortante.
Je vous demande de vous arrêter.
Et oui, comme le temps passe. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune.
Avec votre équipage habituel, Jeanne Padawan et Olivier, Jack Marshall, l'homme à tout faire, Mafalda la voyante, Pierre Filantia, notre maître nageur, Vincent Turban, mélomane invétéré, et bien sûr, à la barre, l'étrange Captain Nifle.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus à bord de notre paquebot. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune. Nous sommes le mardi 17 juin 2025. 2025, oui, il est 15h. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4. Notre navire quitte actuellement le port de Lima, au Pérou, où nous avons laissé Astrid Faguet et Frédéric Vignal, pour se rendre avec légèreté en direction du port de Montréal. À notre bord, avec nous aujourd'hui, deux invités de musiciens, une chanteuse, un chanteur, avec qui nous parlerons de leur passion, cette passion qui les anime depuis si longtemps, de leur création, Stéphanie Sandoz. Bonjour Stéphanie.
Bonjour, ça va?
Tout va bien?
Ouais.
Ouais.
Très bien.
T'as enfilé tes brassards, t'as pris la crème solaire?
Ah bah j'ai tout, j'ai les bouées, j'ai un peu peur des requins.
T'inquiète pas, dans l'océan qui nous entoure, il n'y a pas de requins.
Alors ça va.
Il y a des bébés requins, mais ils sont tous très gentils. Vincent Tardroux, salut.
Oui, bonjour.
Comment ça va?
Ah, ça va super bien.
Ça va bien? Remis du jet lag?
Oui, complètement. Oui.
Tu arrives de?
De Montréal.
Ah, ben bah, notre paquebot s'y rend aujourd'hui.
Eh bah, écoute, c'est comme ça.
C'est formidable. Et tu nous parleras aussi de la passion qui t'anime, donc le piano, la musique.
Absolument.
La poésie, toutes ces choses belles et merveilleuses dont on parle avec grand plaisir sur Radio Libertaire. Vincent Turban, notre mélomane invétéré, lunettes de soleil cachant son regard profond et sur le pont. Quel sera le sujet de ta chronique aujourd'hui?
Bonjour à tous. Alors, le sujet du jour, ce sera un hommage au grand Sly Stone qui est mort le 9 juin dernier.
Dance to the Music.
Absolument.
Magnifique, à tout à l'heure, Vincent. Mafalda, de retour dans le carré du capitaine. Alors, elle s'amuse à déclamer de la poésie en langue espagnole dans les coursives de notre navire, comme ça.
Bonjour, mais là, Mafalda. Je ne sais pas de la poésie, mais c'est presque de la poésie. Bonjour à tous. Je vais rendre un petit hommage aujourd'hui à José Mojica, qui a été mon amoureux, qui le restera d'ailleurs toujours.
Ton amoureux?
Vous verrez.
Ah,
et je
magnifique.
Suis sûr que vous allez tomber amoureux de moi aussi.
On a déjà hâte d'être à la chronique de Mafalda. Jack Marshall.
Bonjour.
Jack. Bonjour, comment ça va? Notre factotum, l'ensemble des compagnies maritimes internationales se l'arrache. Tu es en train de nous préparer des cocktails sans alcool, peut-être, ouais. Avec le temps qu'il fait là.
Tout à fait. Oui.
Oui. Tu nous feras une jolie chronique qui parlera de...
Bah, d'Eddie Barclay, moi.
Ah, Eddie Barclay et toi?
Oui.
C'est aussi une histoire d'amour?
Non, c'est le titre du livre.
Ah, d'accord.
De François Bernheim.
François Bernheim, ok, très très bien. On salue confraternellement Pierre Filantia, resté au port, car il avait un cours de paddle prévu de longue date et il a préféré ne pas sécher son cours. Et puis tout l'équipage se joint à moi pour saluer et embrasser fraternellement Jeanne, qui s'est égarée dans les rues de Lima ou d'Helsinki, je ne sais plus, et que nous retrouverons sans doute sur le quai de Montréal dans quelques heures à présent. Ce bel aréopage est surveillé de près par celui qui, en dehors de l'émission, se fait appeler sobrement Monsieur William. J'ai nommé l'étrange Captain Nifle. Hey, dans son dernier EP intitulé Puzzle, sorti en 2024, Stéphanie Sandoz chantait « Changer le monde ». En l'espace de quelques années, elle a prouvé que son rêve était accessible et que le monde pouvait être changé, en tout cas le sien. De chef d'entreprise dans le chocolat, Stéphanie est devenue artiste, autrice, compositrice, chantrice. Bon, je sais, on dit chanteuse, mais moi, bon, voilà, j'avais envie de partager un néologisme que je trouverais rigolo. Et écrivaine, également. Stéphanie Sandoz est sur tous les fronts et toutes les scènes.
Et oui, je lis votre thèse pour servir sur les croisières s'amusent. Ouais.
Est-ce que tu aimes les interviews, Stéphanie?
Oh, ça ne me déplaît pas.
Ça ne te déplaît
pas?
Je pense
que ça fait partie du... de ce métier que j'ai choisi, envers et contre tout.
Ouais. Et ouais. Est-ce que tu penses que tu dis des choses supplémentaires? Ben non, forcément pertinentes.
Tu vas bientôt le savoir.
Non, pertinentes, mais est-ce que tu penses que tu dis des choses différentes et autres que dans tes chansons, en interview, ou tu sais, un complément?
Non, je crois que je suis assez droite dans mes bottes, moi, à la vie comme à la scène.
Ouais, ouais. Donc on te retrouve, que ce soit en interview ou dans ton... Tes textes, donc, si je comprends bien, sont assez autobiographiques?
Bah, oui, mes textes, de toute façon, on n'écrit pas si on n'a pas quelque chose à dire. Alors moi, j'écris dans un langage très premier degré, c'est délibéré. Il y a souvent un sens caché à ce que je dis. Cette chanson que tu évoques, là, Changer le monde, elle dit en substance que je ne vais peut-être pas sauver le monde, mais je peux commencer par changer le mien.
On est maître de son destin.
Qu'on est maître de son destin, et c'est toute l'histoire de ma vie, tu vois.
D'accord.
C'est à un moment donné décider qu'on est sur un chemin, qu'on n'a peut-être pas pris le bon, et oser avoir l'audace de tout quitter, une vie bien réglée, bien rangée, un salaire, et
un confort,
toutes les commodités qui vont derrière,
oui,
pour aller se jeter à corps perdu dans un truc totalement aléatoire qui s'appelle la musique, et dont tu as une intuition que tu as un rôle à y
que
jouer,
ta place est là.
Sans vraiment savoir si c'est le cas.
Ouais, ouais, ouais. Alors justement, avant de parler de ce monde de la musique et de ce qui t'anime aujourd'hui, on fait juste un petit pas en arrière. Donc tu travaillais dans le monde de l'entreprise, tu as travaillé combien de temps dans le monde de l'entreprise?
On a une bonne douzaine d'années.
D'accord, en tant que...
J'étais directrice générale d'une société qui n'est autre que le Salon du Chocolat.
C'est bon ça.
C'est un gros événement international.
Ben oui. Alors, bon, tu n'y travailles plus.
Non,
on
habite.
Voilà. Est-ce que tu as toujours des contacts? Parce que il y a des gens autour de cette table qui aimeraient beaucoup avoir des invitations pour le Salon du Chocolat.
Écoute, c'est vrai que quand on renonce à un bateau, puisqu'on est sur la métaphore.
Ouais.
Moi, j'étais capitaine de mon bateau.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est un peu difficile de laisser la barre à un moment donné. Donc c'est vrai que je me suis un peu fermée par rapport à ce milieu d'avant.
Ah oui, tu as coupé les ponts, c'est le cas de le dire.
Oui, un petit peu.
La métaphore marine.
Ouais, non, j'ai pas coupé les ponts, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis focus sur ma nouvelle carrière.
Ouais,
donc
t'as tourné la page.
Moins intéressée. Mmh. Cela dit, j'échange toujours avec les chocolatiers qui sont restés mes amis, les pâtissiers que j'ai découverts, parce que j'en ai découvert un paquet.
Ouais.
Et
Vincent Turban aussi échange beaucoup avec les chocolatiers de son quartier.
Et c'était aussi un métier de passion, parce que le chocolat, ça a vraiment un côté familial, artisanal, que moi, je revendique complètement.
Tu t'es malgré tout amusé quand même.
Ah, mais je me suis éclatée.
C'est ça.
C'était
mais
génial.
À un moment donné dans ta vie, tu t'es rendu compte qu'il y avait une force qui était plus forte que le chocolat.
Pour tout te dire, j'ai eu un accident de la vie très grave. J'ai vraiment failli mourir. Je suis morte d'ailleurs une bonne minute. Et c'est ce qui m'a conduit en me réveillant, parce que j'étais vraiment pas. Enfin, il était vraiment pas prévu que je me réveille, mais il se trouve que.
Quelle chance.
Il ne voulait pas de moi apparemment tout de suite. Donc je me suis réveillée et à ce moment-là, j'ai pris conscience que la vie était courte, qu'il fallait aller vite et que j'avais perdu du temps. En ayant l'intime conviction que je devais faire de la musique, mais en n'osant pas encore m'y engager à 300%. C'est-à-dire que j'étais ce qu'on appelle une chanteuse à mi-temps. J'écrivais déjà, je composais déjà, je faisais des concerts déjà, et je le faisais depuis 10 ans, mais je le faisais le soir en sortant du taf, et c'était pas... c'était pas assez engagé.
C'était plus un loisir.
Ouais. Et du coup, on me prenait pas au sérieux. Parce qu'on peut pas prendre au sérieux quelqu'un qui est pas monomaniaque. Moi, je pense que la musique, pour réussir dans ce métier, il faut s'y consacrer vraiment, pleinement. Et j'étais pas encore crédible. Et à ce moment-là, cet accident m'a fait prendre conscience de la précarité de cette existence et de la nécessité de se dépêcher. Et là, alors j'ai tout envoyé valdinguer, quoi.
Okay.
J'ai quitté mon boulot, j'ai quitté mon appart. Enfin, j'ai tout. Il y a de ces moments qui sont comme des carrefours et on décide de partir.
Avant, donc, d'où te vient ce goût justement de l'écriture de la musique, puisque ça vient avant le travail,
depuis
avant les études,
toute petite. Moi déjà, gamine, assez solitaire, j'écrivais dans ma chambre, j'écrivais des petits textes qui ressemblaient vaguement à des poèmes, mais finalement, j'avais une espèce de connaissance assez intuitive de la musique, j'ai l'oreille absolue, et je composais naturellement des sons qui collaient avec mes mots, et en fait j'ai réalisé à l'adolescence que c'était des chansons.
D'accord.
Voilà.
Alors ça, c'est pour la partie écriture, ouais. T'as l'oreille absolue, et tu pratiques un instrument ?
Oui, bah un peu de piano, un peu de guitare. Je m'accompagne pas sur scène parce que je suis pas très douée, mais enfin c'est bien pour m'aider à composer.
D'accord. Et oui, c'est ça. Ça t'aide à composer. Voilà. La musique, enfin l'instrument t'aide à composer, mais
pas
tu n'en
tromper
joues
dans les notes.
Mais tu n'en joues pas sur scène.
Non, j'en joue pas sur scène.
Et les premières chansons, elles arrivent naturellement,
ouais,
comme
c'est
ça.
C'est un truc, un flow, un peu ouais. Spontané. Bon, alors c'est très perfectible, hein. Et puis. C'est en œuvrant qu'on devient forgeron.
Bien sûr.
Donc j'ai écrit, et puis j'ai même écrit des livres à un moment donné.
Tu as écrit des livres ?
Bah, j'ai écrit, il y a eu le Covid,
ouais.
Pile au moment où j'avais décidé
écrit
de changer de vie.
J'ai vu que tu avais écrit deux romans.
Ouais,
c'est
j'ai
ça,
écrit,
ça ouais,
exactement. Donc... Bah, j'étais déjà nègre, comme on dit, pour des maisons d'édition.
Ghostwriter.
J'écrivais pour d'autres. Et puis finalement, au moment du Covid, je me suis dit, je vais écrire mes propres romans.
Okay.
Donc, je venais de vivre une déception sentimentale. Alors, j'ai écrit sur le thème de la rupture. Ça a eu un succès phénoménal. Ça parle à beaucoup de gens. Donc, j'ai écrit deux romans d'amour.
Ouais.
Le premier et puis sa suite. Le premier roman s'appelle De glace, de l'expression. Et le second, Va voir Didier.
Oui, Va voir Didier.
Voilà.
Et j'ai d'un rêve.
Exactement. Mais
on en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Donc, à ce moment-là, tu écris, mais ça, c'est tu écris de manière romancée pendant le Covid, mais
voilà.
Ça, tu faisais déjà des chansons.
Exactement, je faisais déjà des chansons, et puis je ne m'attendais pas au succès de mon premier livre.
Ok, tu quittes les affaires, quand ?
Vers 2019.
D'accord, ouais. Et en fait, tu m'as dit que tu avais une période un peu de transition, où tu étais un peu à cheval entre les deux.
Tu te retrouves du jour au lendemain, sans horaire, sans contrainte, sans collaborateur, tu es assise sur ton canapé, tu regardes le plafond, et puis tu te demandes comment ça va se passer. Et puis finalement, tu trouves un rythme, c'est comme tout, hein. Tu vas trouver tes partenaires, tu repars en croisade, quoi. Mais tu redémarres de zéro.
Eh bien, ce changement, on va l'entendre demain, de suite. Changer le monde, extrait du dernier album Puzzle de Stéphanie Sandoz.
Changer le monde dès demain. Et la nature qui pleure dehors. Sauver le monde, créer le monde, un chemin et un futur meilleur encore. Changer le monde. Je ne sais pas si je saurais, je ne sais pas si je pourrais, mais je peux au moins. Essayer de changer le mien, faire fi du lest et sauver ce qu'il en reste, sauver ce qu'il en reste, changer le tien d'un petit geste et sauver ce qu'il en reste. Sonner le gong d'un refrain et faire swinguer les dingues, les morts. Sauver le monde, la clé des songes dans ta main pour transformer le plomb en or et changer le monde. Je ne sais pas si je saurais, je ne sais pas si je pourrais, mais je peux au moins essayer de changer le mien, faire fi du lest et sauver ce qu'il en reste, sauver ce qu'il en reste. D'un petit geste et sauver ce qu'il en reste, sauver ce qu'il en reste.
Et oui, comme le temps passe. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune.
Changer le monde, Stéphanie Sandoz, extrait de son dernier album sorti en 2024, Puzzle. Puzzle, c'est des petits bouts de toi?
Ouais. Des petits morceaux composites de planches poche. J'avais des envies, j'ai assemblé. Moi, tu sais, je compose tout le temps, j'écris tout le temps. Alors, plutôt que de garder ça dans un tiroir, ce qu'on appelle les tiroirs songs, moi, je préfère compiler ça et en faire des albums. Ce qui fait de moi quelqu'un qui, paradoxalement, a fait beaucoup d'albums. Parce que j'aime bien l'idée d'associer une identité à mes projets. Puis, c'est des tranches de vie, l'écriture. T'écris un truc à un moment, t'écriras peut-être pas du tout le même truc dans 6 mois. Donc j'aime bien compiler ça, en faire un souvenir.
Alors là, c'est un petit album en fait, Puzzle.
Ouais, c'est un EP.
C'est un peu plus qu'un EP, c'est un peu moins qu'un album.
Sept titres. Alors en fait, le dernier titre, Fly, qui est en anglais, puisque moi je chante en français, en anglais. On l'a fait là-bas. Ah oui, parce que j'ai...
Oui, alors, c'est où là-bas?
Là-bas, c'est au Canada.
Au Canada?
Je suis partie à Toronto. Voilà, avec un super réalisateur qui s'appelle Chris Birkett, qui m'a proposé de venir
rejoindre. Je voudrais que tu nous racontes comment Chris Birkett t'a rencontré.
J'ai fait une petite vidéo sur Instagram. Voilà. Il se trouve que je danse beaucoup pendant mes concerts. Ouais. Je suis pas du genre à rester sur un tabouret avec ma guitare. Donc, c'est vrai que je suis pas mal dans le mouvement. Et puis, cette vidéo, je sais pas, s'est emballée sur Instagram et j'ai fait un peu moins de 5 millions de vues. Enfin, un peu plus de 4 millions.
Quand même.
Pas mal. Qui est devenu un peu viral sur un petit pas de danse comme ça. Et il fait partie des gens à avoir vu cette petite danse. Et ça lui a donné envie d'écouter ce que je chantais. Donc, il est allé écouter et il est mis que existe parce qu'il m'a sollicité. Voilà.
Sur Insta, il t'a envoyé un message.
Il m'a dit si vous avez du temps et vous avez envie de venir au Canada, je serais ravie de faire des titres avec vous. Ben, moi, j'ai pris un avion, je suis partie. Hein.
Ok. Donc, sur les sept titres de Puzzle ont été enregistrés à Toronto, c'est ça?
À Toronto.
D'accord.
Et il se trouve que cette chanson Fly, on l'a chantée sur scène un soir à Toronto, le seul soir où je suis sortie, j'ai vu Toronto. parce que j'ai pas eu le temps de sortir.
On l'écoutera tout à l'heure.
Ouais, on l'a chantée tous les deux et on a décidé de l'ajouter en dernière minute à l'album. Donc on est passé de 6 à 7 titres sur place.
Alors pour les auditeurs de Radio Libertaire qui ne sauraient pas par hasard qui est Chris Birkett, est-ce que tu peux
Un célèbre producteur et réalisateur international, un anglais, qui s'est fait connaître parce qu'il faisait partie du groupe qui interprétait la chanson Everlasting Love.
Love Affairs,
en Angleterre, et qui par la suite a signé d'innombrables succès. Il a vendu plus de 100 millions d'albums dans le monde, et notamment c'est le réalisateur de Nothing Compares to You de Sinéad O'Connor, qui nous a quittés, si je ne m'abuse, il y a 2 ans.
Ouais. Il a travaillé également avec les Pogues, Talking Heads, Mel Gibson,
avec beaucoup de monde.
Bon, le gars, 100 millions d'albums vendus.
Extrêmement flatté d'être là.
100 millions. T'imagines un peu, Vincent? Un dollar par album?
Et je crois qu'il est classé, j'ai vu ça, je crois, sur Facebook il n'y a pas longtemps, 7e réalisateur worldwide.
Bien, donc Stéphanie Sandoz ne travaille pas avec n'importe qui, nous sommes très heureux et flattés de l'avoir.
J'ai vraiment pas fait exprès.
Est-ce que cet album marche à l'international?
Ouais. Alors, tu sais, c'est difficile de pousser ses chansons en France quand on est artiste indé.
Ouais.
C'est très compliqué. Donc, moi, le paradoxe, c'est que je suis française. La plupart du temps, je chante en français, j'écris en français. Mais la plupart de mes succès et des chansons qui ont percé quelque part, ont percé à l'étranger. Ça va du Maghreb au Canada, en passant par l'Angleterre. Là, mon nouveau single est en train de percer là-bas. En revanche, en France, ça reste poussif. Hein. C'est moins évident.
Mais alors, les programmateurs, si vous nous écoutez, n'hésitez surtout pas à mettre les titres de Stéphanie Sandoz dans vos playlists parce que ça vaut vraiment le coup. Ce dernier album a été enregistré à Toronto, le précédent Soul Kitchen.
Au Texas.
Oh. Voilà.
J'aime voyager. Bah oui, la vie est courte, faut voyager.
Alors, cet album-là, il est quand même assez particulier. Soul Kitchen, très bien.
Ouais, c'est la petite cuisine de mon âme. Quoi,
ouais. Ce qui est assez drôle, c'est quand j'ai commencé à regarder la liste des titres, j'ai regardé le premier, je me suis dit, tiens, ça parle de bouffe, et puis le deuxième de nourriture, et puis le troisième de frigo. Je me suis dit, mais c'est un concept album. En fait.
Ça faisait un peu le lien entre ma vie d'avant et ma vie de maintenant. Je trouvais ça amusant de faire un album sur ce thème.
Ouais.
Et puis aller parler avec ma petite petite voix fluette, de recettes de cuisine sur de la musique soul. Je trouvais ça cool.
Et alors tu voulais l'enregistrer live, tu m'as dit ? C'est ça, cet
ouais,
album
bah on l'a enregistré, tu sais, à l'ancienne, hein, dans un studio, avec, on est tous ensemble dans le ouais. studio et on est tous séparés par des cloisons.
Ouais. Et on joue tous ensemble.
Et on joue tous ensemble. Et d'accord. C'est ça qui est sympa. Donc c'est un album qui est très imparfait en termes de son, mais on s'en fout. Moi, j'avais envie de faire un truc comme ça. Et puis c'était vraiment pour le plaisir de renouer avec le plaisir de la musique. Et puis c'est des gens, les Américains, si tu veux. Là, je suis vraiment au berceau de la soul. J'ai adoré Austin. Enfin, si je devais vivre quelque part, j'y vivrai.
Ah oui.
Pour un amateur de musique, c'est une ouais. ville extraordinaire où à chaque coin de rue et t'as un groupe qui joue live et ce sont des fous de musique live.
Les amis, si vous êtes des habitués de, eh bien dépêchez-vous de rester jeunes. Souvenez-vous quand on a reçu Gaël Beuzeval qui était venu nous présenter son dernier album, elle nous avait parlé exactement de son voyage à Austin au Texas en disant effectivement qu'elle avait rencontré un joueur de guitare dans les rues, de rue, ouais. qu'elle s'en était fait un pote.
Ouais.
Que
c'est comme ça, c'est
elle,
facile.
Elle l'a invité à enregistrer sur son album, que ça a donné oui. un succès, que le mec depuis il est demandé de partout. Enfin bon, il paraît que c'est la ville un peu du rêve pour la musique.
Le réalisateur de mon album à Austin s'appelle Adrian Quesada. C'est l'un des deux membres du groupe Black Puma. Black Puma, Grammy Award, voilà. Et au départ, c'est un petit réalisateur d'Austin qu'on a trouvé un peu comme ça sur Internet.
Ouais.
Et 6 mois plus tard, il faisait Colors des Black Puma, qui a été un tube planétaire.
Tu t'es rendue au Texas toute seule ou avec une partie de ton équipe? T'as trouvé les musiciens sur place?
J'avais un ami là-bas que je connaissais déjà,
d'accord.
qui était lui-même musicien, qui avait son studio et on a, il m'a aidé justement à chercher l'équipe,
ouais.
monter l'équipe sur place. Mais là-bas, ça se passe, c'est super organique, c'est-à-dire qu'on est en studio. Voilà, on s'amuse, on fait de la musique, vraiment pour le plaisir d'être ensemble. Et puis, Adriane, justement, appelait ses copains en disant « Bon, alors là, j'ai besoin d'un drummer, est-ce que tu peux passer ?» Donc, il y avait un type qui arrivait, que je connaissais pas, qui arrivait, qui se mettait à jouer, mais c'était fantastique. Voilà, et tu joues avec des gens qui sont des stars, quoi, c'est incroyable.
Ouais, ça doit être assez exaltant.
Ah, c'est super.
Ouais.
C'est une super expérience.
T'arrives le matin avec ton projet de chanson, tu
voilà,
repars le soir.
Puis ton niveau d'anglais, parce que bon...
Oui, parlons-en du niveau d'anglais.
Parlons de mon accent. Non, mais bon, ça m'a jamais empêché de signer des contrats dans ma vie d'avant, ouais. dans d'autres pays.
Mais tu l'as enregistré en français, le Soul Kitchen?
Oui, je l'ai enregistré en français. Ben, ouais. Je trouvais que le décalage était amusant, là, justement, tu
ouais,
vois,
ouais, ouais.
de faire un truc bien décalé.
Ouais, et les Anglais, enfin, les Américains, ça les a pas dérangés que t'enregistres des chansons en français?
Non. On les a même joués dans des bars locaux.
Ok. Voilà. Est-ce qu'ils ont saisi la substantifique moelle de tes chansons?
Absolument pas. Absolument
non,
pas.
Non, ils sont là, ils jouent et basta.
Non, ils s'accrochent à la mélodie.
Ouais,
la mélodie ouais. devient le vecteur.
Ouais.
Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai séduit un peu là-bas. Ouais.
T'as tout écrit, tout composé?
On a co-composé avec mon ami musicien acolyte Hugues de Saint-Quentin, voilà, qui avait un groupe de rock qui s'appelait Ukae.
Qui
vivait à Austin à l'époque.
D'accord.
Et voilà, qui a co-composé avec moi certaines chansons. Ouais.
Ok, donc c'est pour ça qu'on le retrouve pas sur le dernier album, parce que lui il est resté à Austin et
lui,
toi t'es allé à Toronto.
Exactement, je suis partie à Toronto parce que moi j'ai la bougeotte. Donc
c'est très bien.
Voilà, donc je suis repartie.
C'est très bien. Hormis Austin et Toronto,
New York.
Bah oui, évidemment. Pourquoi j'ai pas pensé plus tôt.
Voilà, ma première démo, ouais. c'était à New York. Alors, je t'assure, c'est pas une mytho. Hein, c'est
non, mais on te croit ici.
Je suis au Salon du Chocolat à l'époque avec un groupe de chocolatiers.
Ouais.
Et je rencontre un type dans un bar à Soho. Et il me semblait bien que ce type-là, je l'avais déjà vu quelque part. Et en effet, il avait récupéré un Grammy quelques jours avant à la télé, je l'avais vu. Et il s'appelle Brian Michael Bacchus et c'est lui qui avait fait l'album de Norah Jones le premier. Attends, Come Away With Me, j'ai peur de me tromper. Non, c'est
Vincent,
ça.
Turban,
je confirme.
Non, merci voilà. Vincent. Si tu sais pas, tu demandes à Vincent. Lui,
et c'est... donc le mec sympa, je lui dis que je fais de la musique et tout. Bon, il me dit bah écoute, demain si tu veux, tu passes à mon studio et j'écouterai ce que tu fais. Donc j'arrive, je fais écouter mon truc. Oh, j'avais enregistré sur la table. table basse du salon, quoi, la honte. Et il y avait un studio, il y avait des disques d'or et tout. Je me dis, qu'est-ce que je fous là? Et puis, bah, finalement, voilà, on se quitte bons amis. Moi, je repars à Paris et tout. 6 mois plus tard, coup de téléphone. Bah, si t'as du temps, moi j'ai un peu de temps, viens, je peux t'aider à faire une démo. Bah pareil, j'ai pris un avion, je suis reparti.
Simplement.
Et on a enregistré, je m'en souviendrai toujours, dans un studio qui s'appelait The Dungeon, le donjon. Je trouve que c'était assez prédestiné pour une princesse. et c'est vraiment le studio au fin fond de New York, c'est une trappe dans le sol.
Okay.
Donc je pense que si le gars avait été un psychopathe, ouais, on m'aurait jamais retrouvé, en vrai. Parce que tu sais, au milieu d'une rue, s'ouvre, ouais, une trappe, tu descends et, ouais, en bas t'as des claviers et c'est incroyable. Et ça, je l'ai fait aussi au tout début.
Voilà. Tu vas nous raconter juste après. On écoute ton dernier single, Love Will Find a Way.
Exactement.
Comme le temps passe, et bien dépêchez-vous de rester jeune.
Love will find a way. Stéphanie Sandoz, c'est le premier extrait de l'album.
Du futur album.
Qui sortira.
Qui sortira en octobre prochain.
Alors, un album qui contiendra combien de titres?
On est toujours work in progress. Donc
d'accord.
Je ne sais toujours pas combien de titres il va y avoir. Parce que, en fait, toutes les semaines, on a une nouvelle idée de chanson. Donc, tant que... Donc on ne s'arrête pas. Donc c'est un album que je fais avec un garçon que j'ai rencontré il y a quelques mois seulement, qui s'appelle Fabien Cahen, qui a lui-même un passif d'artiste indé, puis artiste signé en major, parce qu'il a été chez Warner, je crois, avec le groupe Cox notamment. Et il a beaucoup collaboré avec des tas de gens, Zazie, Jean-Louis Aubert, Bachung. Et aujourd'hui, après cette tournée pendant quelques années vers la musique de film, il revient justement à la production, à la compo, et il coproduit cet album qu'on enregistre dans son studio, qui se trouve dans le Perche. Alors pour une fois, je suis en France.
Vous avez bien entendu, mesdames et messieurs, ça n'est pas Toronto, ça n'est pas New York, ça n'est pas Austin, c'est le Perche.
Ah oui, c'est un côté hyper reposant.
Ah bah oui, ça, par rapport à Austin, c'est sûr que perche. Hein.
Je suis devenue VIP SNCF, quoi.
Ah bon,
je fais des allers-retours tout le temps, mais c'est super. Franchement, ouais. J'ai trouvé une famille avec Fabien et une complicité assez rare. C'est-à-dire qu'on est vraiment connectés, on a les mêmes références artistiques et on se complète vachement à tous les niveaux. Et il me pousse à aller plus loin que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Parce que finalement, le souci quand t'enregistres à l'étranger, c'est que t'as un temps donné sur place et tu peux pas pousser davantage. T'es contraint par le timing.
Ouais.
Là, on a tout le temps du monde. Tu sais quoi, si on décale de 15 jours notre sortie, on décalera de 15 jours notre sortie, c'est pas grave.
Vous ne travaillez que tous les deux en studio? Vous faites tout seul ou vous avez des musiciens qui viennent?
On fait tout seul. On a quelques musiciens qui viennent nous aider. Donc on collabore avec les membres de mon groupe et puis aussi des amis à lui. Ben là, par exemple, pour la basse, sur les titres qu'on est en train de faire, on a Alain Verderossa. On travaille avec Jeff Delors pour le mix, on travaille avec Benjamin Joubert, Biduloscope pour le mastering, et puis la plupart des trucs, on le fait tous les deux. Ouais.
J'ai lu que tu étais en fait ta propre productrice.
Oui, ben là en l'occurrence, on est coproducteur. Hein. Ouais. Fabien, ça me fait vraiment dans
ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas de label.
Ben, j'ai mon label.
Oui, non, mais c'est ça, tu n'as pas un autre label.
Ah,
ben
non,
mais
alors là, c'est pareil, tu vois. Si tu attends qu'une maison de disque signe, je pense que tu es encore dans 10 ans. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai monté mon label. C'est une coquille. À l'intérieur, j'ai mis tous mes titres. J'en ai un paquet. Et puis voilà, comme ça, je reste indépendante et c'est très bien.
Tu as gardé tes éditions?
J'ai gardé mes éditions, évidemment.
D'accord.
Premier truc qu'on apprend dans la musique.
Voilà. Ou premier truc qu'on se fait voler dans la musique.
Tu commences par te les faire voler, puis après t'apprends.
Donc en fait, t'es propriétaire de tout, là.
Ouais.
D'accord, ok. Cet album, ce titre-là qu'on vient d'entendre, il est en anglais. Le reste de l'album sera...
En français.
Ah, c'est la seule chanson, comme
alors,
sur Puzzle.
Peut-être pas la seule, parce que justement, ouais. Tu vois, dans les petites surprises, on fait une cover là, qui n'était peut-être pas prévue à l'origine.
Ah.
Je sais pas, il y a un titre qu'on chante très bien en concert et avec une identité assez particulière, donc on a eu envie de la mettre sur l'album.
Ouais.
Celle-là, elle sera en anglais, tu vois. Mais tu vois, c'était pas prévu au démarrage. Moi, j'intellectualise plus. J'ai arrêté là le moment où j'intellectualise mes albums. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà, moi, je fais, et puis après, on verra quel nom on lui donne. Tu me demanderais le nom de mon album aujourd'hui, je suis pas capable de te le donner.
D'accord. Et c'est quoi le nom de ton album?
Je sais pas encore. J'ai plein de noms.
D'accord. Bon,
voilà.
On attendra avec impatience la rentrée pour découvrir ce nouvel album.
Love Will Find a Way, on trouve que c'est un titre frais. On avait envie de le sortir pour l'été.
Ça fait très club.
On avait envie. Alors, je vais te dire, l'inspiration, c'est Blondie, les Cardigans. On avait envie d'un son un peu comme ça. Et au départ, je l'avais écrite en français, puis je trouvais que ça sonnait pas. Donc, je l'ai adapté en anglais. Et l'avantage, le petit avantage d'être bilingue. Et puis voilà, ça donne ce titre.
Donc les chansons que tu enregistres actuellement, elles sont déjà écrites ou justement au fur et à mesure du travail, il y a des idées qui viennent et des chansons qui peuvent naître.
Ah bah, tu peux toujours avoir des idées. Ouais. Tu sais, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. À un moment donné,
ce que je veux dire, c'est que tu
changes.
Tu travailles perpétuellement.
Ouais.
Ça ne s'arrête jamais en fait.
Non.
La machine à création ne s'arrête jamais.
Non, je n'arrête pas. c'est le moment. Tu sais, t'attends toute ta vie un moment où enfin les étoiles s'alignent un peu. Puis là, en ce moment, je sais pas, il se passe un truc. Il y a quelque chose qui se passe autour de mon travail, comme si pour la première fois j'étais un peu vue, un peu entendue. Donc c'est pas maintenant que je vais m'endormir, tu vois.
Ouais,
je dormirai après.
Tu te reposeras plus tard. Ouais. Love is Find a Way est un titre qui tourne pas mal à l'étranger.
Ouais. Écoute, c'est rentré en playlist en Angleterre, c'est rentré au Canada, c'est rentré au Mexique, et là c'est rentré en Belgique depuis hier.
Ah, formidable.
Ouais, je suis contente.
Ah, les Belges ont du goût.
Ouais, les Belges.
Bon, et en France, qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, écoute, en France, ça vivote, ça prend son temps.
T'as eu des titres playlistés sur les albums précédents?
Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plus difficile quand t'es indé. Oui, on va pas se mentir.
Alors, est-ce que les titres qui sont rentrés en radio précédemment, c'était des titres français?
Ah ben, y a pas de règle. Hein. Alors, un coup, on va te dire, hein, non, mais c'est trop pop. Un coup, on va dire c'est trop anglais.
Alors, moi, je pense juste au quota.
Ah oui, le quota. Bah,
parce que t'as beau être française, si tu chantes en anglais, tu rentres pas dans la catégorie chanteuse française.
Ça dépend. J'ai fait un titre il y a quelques années qui s'appelait Flashback, que j'ai d'ailleurs défendu à l'Eurovision Suisse. Ça, j'en parle pas tellement. Hein. Mais bon,
tu veux qu'on en parle?
En quelle année c'était? 2015.
Et puis bah, ce titre-là, tu vois, il est passé partout, mais il y avait une actu autour, c'était autre chose, mm-hmm. c'était différent.
Oui. Et donc, le Love is Find a Way, Will Find a Way, bah,
il arrive
en France.
Comme ça, il arrive juste avant l'été, on va lui laisser le temps de s'installer. Ouais. Tu vois, ça me fait penser à Charlotte Cardin et à son Feel Good, là.
Ouais.
Je crois que cette chanson, au démarrage, elle n'a pas rencontré de succès du tout en Europe. Et puis aujourd'hui, un an plus tard, tout le monde l'écoute, ça explose. Donc, il faut aussi laisser le temps à un titre de s'installer. Peut-être que moi, ça va démarrer par l'étranger et pour doucement revenir en France.
Souhaitons que cette chanson ne mette pas un an écart pour trouver sa voix.
Il y a plus d'un an écart que tu m'as dit au revoir. Les jours ont passé, je les ai comptés. Oui, déjà un an écart à rester là dans le noir. L'amour s'est caché, j'ai trouvé la clé. Je pars rattraper les minutes, les semaines, à ressasser les luttes et les peines, à se dire que la quête était vaine, à sourire qu'à la fête était belle. Couvrir de blanc les doutes, les détails, ouvrir en grand la voûte d'un idéal. Enfin boucler cette boucle infernale. Fin de la route, je mets les voiles. Et faire d'un an écart un grand écart, mon grand écart. C'est bien trop un an écart. C'est la goutte d'eau, j'en ai marre. Les mois ont coulé, je pars pousser à l'ouest les lignes, l'horizon, et couper net le fil des saisons. Faire d'un vœu ma révolution, vers d'autres cieux, d'autres missions. Quitter un soir la scène avec panache et voir la vérité bien en face. L'espoir est figé dans la glace. Trop tard je lâche avant le crash. Je suis d'un an écart, une autre histoire, mon autre histoire. Des poussières de rêve à nos étoiles, il n'y a qu'un voile qui s'élève. J'attends pas un an écart pour croiser ton regard. Les vents tournés, le temps est compté. Je pars, je fais d'un an écart une autre histoire, une autre histoire. Je pars et fais d'un an écart.
Et oui, comme le temps passe. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune.
Un an écart, extrait de l'album Puzzle de Stéphanie Sandoz. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune. Stéphanie Sandoz, Vincent Tardreau, ça va Vincent?
Tout va bien.
Ah ben, on t'entend pas, mais t'écoutes?
Ah, j'écoute tellement.
Tu dors pas, là.
Mais c'est un conte de fées.
Tu kiffes?
Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise?
Je
ne peux qu'écouter.
Magnifique. Vincent Turban, tout va bien?
Tutto a posto.
Tutto a posto,
tout
perfetto.
Va bien.
Jack, la crème solaire, non
bon. Oui, tout va bien. Tout va bien. Non, on parlait de. Tout à l'heure, vous disiez que tu étais chasamé.
Oui.
Mais comment vous...
Parce que tu reçois des rapports, au fait, d'Apple Music qui t'expliquent. Et donc, Shazam. Donc je me dis, si je suis Shazamé, c'est que je suis écoutée.
Ça plaît,
tu vois, et quand t'es indé, tu dois aller à la pêche aux infos, comme ça, parce que t'as personne qui vient te faire...
Être Shazamé, comme on dit, c'est déjà bien, c'est-à-dire que quelqu'un s'intéresse.
Est-ce que les décomptes de nos amis de la SACEM ne précisent pas où est-ce que ça a été téléchargé, qui est-ce qui a écouté?
Il faudrait déjà que je retrouve mes identifiants, quoi.
Mesdames, messieurs, une artiste.
14-12-B-25-294.
Voilà. Non, mais il faut que je m'en occupe, c'est vrai.
En regardant quelques petites vidéos sur ton Insta de scène, de concert, j'ai vu que tu te donnais vraiment... À fond ?
À fond.
Quand t'es sur le plateau ?
Bah attends, si tu fais des concerts, c'est pour être généreux, non ? Sinon, tu restes dans ton canap.
Oui,
absolument.
Je crois.
Ouais.
Donc, moi, je suis généreuse. Enfin, je m'exprime et j'ai envie de donner aux gens. Alors, j'ai la chance d'être sur une super scène au théâtre de la Tour Eiffel, le théâtre de Christelle Chollet.
Oui, explique-nous comment tu as fait
comment
pour être... comment tu t'es retrouvée là. Et puis surtout, t'es récurrente, quoi. T'es là souvent.
Exactement. Bah, au fait, j'ai démarré... arrive la fin du Covid et du confinement. Mm-hmm. Je me dis, il va falloir jouer. Donc là, j'envisage de retourner dans les salles que je faisais avant. Le réservoir, le bus, le Nopi, enfin ce Pigalle avant. Et là, je me rends compte que tout ou presque a fermé, qu'il n'y a plus de salle de concert. Donc je me dis, bon, moi, il faut que je joue à Paris. Et je tombe sur un petit théâtre dans le 16e arrondissement qui s'appelle le Théâtre de Passy, 250 places, qui avait fait des travaux pendant le Covid. Mm-hmm. Je vais les voir en leur disant bonjour, est-ce que vous accepteriez de me laisser chanter et à quelles conditions? Et puis ils me disent non, on fait uniquement du théâtre, pas de musique. Puis j'insiste un peu, ils acceptent de me laisser chanter sur une date. Et puis je remplis. Les 250 sièges, bon, à la fois c'était la première fois, donc je me dis c'est peut-être un accident, on recommence, je re-remplis, on recommence, je re-remplis, et ainsi de suite sur cette date. Et je me dis, bon, si je grandis pas, je vais m'installer dans une espèce de routine, un ronron, là il faut que je trouve plus grand. Donc je suis allée démarcher les théâtres parisiens et jusqu'à ce que je tombe sur le théâtre de Rémi Caccia et Christelle Chollet, théâtre de la Tour Eiffel. 500 places, le double. Et là, je me dis, voilà, c'est peut-être un peu grand. Mais bon, allez, on essaye, qui ne tente rien n'a rien. Et j'ai rempli. Et j'ai rempli déjà. Ouais,
deux fois 250 pleins, ça fait une fois 500 pleins. Hein.
Voilà, mais là, j'ai déjà rempli 6 fois.
Voilà. Les mots me manquent, bravo.
Donc, je continue à la rentrée.
Et le 15 octobre, Stéphanie Sandoz sera sur la scène de ce magnifique théâtre de la Tour Eiffel. Voilà. Pour une date ?
Alors, deux. 15 octobre et j'attends la deuxième date qui sera, je pense, mi-janvier.
D'accord.
Voilà.
Ok. Donc tu es souvent sur scène à Paris.
Sur scène là-bas. Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler rapidement Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe qui t'entoure de musiciens exceptionnels?
C'est mes copains. Ben oui. Alors
ton groupe, comme tu dis.
Ouais, mon groupe. Alors bon, alors je fais, tu vois, j'ai plusieurs formats de groupe parce que bah parfois je me retrouve dans des live bars en province et là je vais aller jouer avec un guitariste. Alors en ce moment c'est vrai que mon guitariste c'est le réalisateur avec lequel je collabore, Fabien, puisqu'on passe notre vie à composer, c'est aussi simple de jouer ensemble, c'est un super guitariste. Et puis à côté de ça, je vais me retrouver dans des formations un peu plus pleines avec guitare, basse, batterie. Donc là mon batteur, je crois que tu le connais, c'est Franck Choa et Red Charré, c'est hyper dur à dire.
Notre ami du Pays Basque.
Mais voilà,
magnifique batteur.
Je le connais depuis longtemps, il m'accompagne depuis super longtemps. Pareil, Pierre Leguet à la basse. Je crois que j'ai fait mon premier album avec lui, donc on se connaît quand même depuis un paquet d'années. Ouais. Alors, tu sais, les histoires de musiciens, c'est qu'entre-temps, tu te perds de vue. Oui. Parfois, tu enregistres avec des réels qui te disent « Moi, je veux bosser avec un tel », donc tu te retrouves à bosser avec un tel. Et puis, tu reviens quand même toujours aux gens que t'aimes bien, quoi.
Ouais.
Voilà, en guitare, je bosse beaucoup avec Eric Sauvia. Je bosse beaucoup avec Mathieu Leroy, Gilles Guérif, avec lequel j'ai fait un EP, d'ailleurs. Qui a beaucoup travaillé, collaboré avec Francis Cabrel, qui j'oublie, Yasmine Shah, qui a composé des titres de mon premier album, qui m'accompagne au clavier. Enfin bon, alors jamais tout ça en même temps, mais des petits bouts de chacun.
Et voilà. Puis j'ai vu que sur l'album Puzzle, en regardant les crédits, j'ai vu que tu avais travaillé aussi avec des textes de. Tu avais mis en musique des textes de Cyril Paulus ou de Lenaka.
Ouais, c'était plutôt des compos.
Des compos.
On a co-composé ensemble.
D'accord. Alors,
Cyril Paulus, généralement, il vient à la maison, et on se fait un petit dîner. Il se met à la guitare, et puis tout d'un coup, on fait un truc. On se dit, ah, c'est pas mal ça.
Ouais.
Et puis on se dit, allez, hop, on en fait une chanson. Voilà. Et Léna, c'est pareil. C'est vraiment des copains de toujours, et ça nous arrive d'avoir envie de faire une chanson ensemble comme ça, et puis ça vient comme ça, et on la dépose, et alors, ça devient un titre.
Si ma mémoire est bonne, Cyril Paulus, c'était Le Roi Soleil, être à la hauteur.
Être à la hauteur, entre autres choses. Et puis il avait fait des super albums pour lui, hein,
oui,
Autre
oui,
Nom. Moi j'adore cette chanson de Cyril.
Ouais.
Là il s'est mis un peu en recul par rapport à la musique, mais ça fait un moment, mais je sens qu'il va pas tarder à revenir.
Tu vas aller le chercher
quand elle est, moi je compte bien le faire venir sur la scène du théâtre de la Tour Eiffel un jour pour un duo. Parce que alors au théâtre je fais venir des invités, alors ça pareil, les gens me disent, les gens du disque, hein, j'entends, le public adore, les gens me disent, mais pourquoi tu chantes avec d'autres gens? Mais parce que moi je trouve que la musique c'est un partage, et moi mon kiff, je tire mon plaisir du fait de collaborer avec plein de gens différents. Donc oui, sur ma scène, j'invite Christelle Chollet à chanter avec moi, ou la petite Lisa Pariente qui cartonne en ce moment et que je repère sur les réseaux sociaux, et je me dis, elle a une super voix cette nana, j'ai envie de faire un duo avec elle. Je lance des invitations, après les gens acceptent ou n'acceptent pas. Mais moi, je trouve que ça crée des surprises pour le public. Surtout quand tu connais mal un artiste et son univers, et que tu le découvres, t'es content aussi de retrouver au fil du set, sur un set d'une heure et demie, 2-3 covers avec des gens et des jolies voix pour les chanter.
Est-ce que tu fais des reprises dans ton tour de chant?
Ça m'arrive de faire 2-3 covers, oui.
Ouais. à la sauce Stéphanie Sandoz.
À la sauce Stéphanie Sandoz, évidemment.
Ouais. C'est ça qui est bien. Hormis le théâtre, le théâtre du 15, le, pardon,
15
le théâtre
octobre.
De la Tour Eiffel le 15 octobre, t'as d'autres dates là de prévues au cours de cet été?
Oui. Alors, je joue le 20 septembre à Saint-Raphaël, dans un endroit qui s'appelle l'Usine. Ça, je m'en souviens. Attends, parce que je vais pas me souvenir de tout. Hein.
C'est pas grave.
Que je joue à Lyon. Je joue à Nice. Je vais pas me souvenir des dates, je suis désolée,
j'ai
pas préparé.
C'est pas grave. On ira sur ta page Insta pour trouver tout ça.
Voilà, vous trouverez tout ça sur mon Instagram,
ouais.
@Stéphanie Sandoz, Sandoz, comme le calcium. Et il en faut pour faire ce que l'on fait. Et oui. Et puis surtout, je prépare doucement mais sûrement l'Olympia, première partie d'un artiste qui m'a repéré au théâtre de la Tour Eiffel, qui est venu me voir à mon spectacle.
Ouais,
Grégory Bakian, et qui à la fin du spectacle me dit, moi je cherche quelqu'un pour ouvrir mon Olympia. Et
alors il fait un Olympia, précisons, en hommage à Charles Aznavour.
Exactement, il a un spectacle qui s'appelle Bakian chante Aznavour, qui va être un peu partout en 2025-2026,
ouais.
et qui se clôture par cet Olympia que j'aurai le plaisir d'ouvrir.
Tu m'as dit la date?
Le 5 octobre 2026.
Ah oui, c'est...
On a un peu de temps.
C'est l'année prochaine, d'accord.
C'est pour ça que moi, en attendant, j'ai le temps de faire plein de dates. Partout.
Et en attendant, on va écouter un dernier extrait de l'album Puzzle. On va écouter tout simplement Fly.
Merci.
What I'm trying to say is make a new direction. Who said nothing changes underneath the heavens? Turn on the light
for the one you love.
The age of darkness
is over now.
Those old ideas
are gonna drag you down. I believe
the sky. Shine on one another. Turn on the light
for the one you love.
The age of darkness
is over now.
All those old ideas
are gonna drag you down.
And maybe we can learn to fly.
Passe.
Et bien, dépêchez-vous de rester jeune.
Fly, dernier extrait, enfin un nouvel extrait plus exactement de l'album Puzzle de Stéphanie Sandow, ce album qui est sorti en 2024, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, les Deezer, les Spotify, YouTube, et un peu partout, partout. Et puis ton Insta aussi sur lequel on trouve
hashtag
bien l'info.
Stéphanie Sandoz, S-A-N-D-O-Z.
Comme le calcium.
Comme le calcium. Mais ce n'est pas ma famille.
Ah, d'accord. Malheureusement. Toute autre chose, Mafalda, on est très heureux de te retrouver en studio cet après-midi. On t'écoute.
Oui, alors, chers auditeurs, chers auditrices, aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à un grand monsieur. Connaissez-vous José Mujica?
Pas du tout.
Plus connu comme Pepe Mujica. Au passage, je vais vous apprendre un truc. Les José, c'est-à-dire Joseph, on les appelle en espagnol Pepe. Pourquoi? Parce que ce sont les initiales de Padre Putativo, c'est-à-dire Père Putatif, c'est-à-dire Père Présumé. Voilà. Donc Pepe nous a quittés à 89 ans le 13 mai dernier à Montevideo, capitale de son pays, l'Uruguay.
L'Uruguay.
Dont il a été pendant 5 ans le président entre 2010 et 2015. Un président au parcours très particulier. Paysan, il passe à la lutte armée au sein du groupe d'opposition d'extrême gauche Los Tupamaros, dont vous avez entendu parler.
Bien sûr.
Qui ont été actifs entre 1960 et 1971. Arrêté, Pepe passe 14 ans en prison, où il subit des tortures et des traitements inhumains, comme d'être enfermé dans un cachot seul, pendant 7 ans, sans un livre. 7 ans à méditer dans la solitude, avec pour seule compagnie des fourmis et des araignées, dont il disait que c'était ses compagnes de cellule. Un truc à devenir fou,
ou moins sage.
Il est libéré en 1985, n'abandonne pas la politique jusqu'à devenir président. Un président pour le moins atypique. Il disait, le pouvoir ne change pas les personnes, il révèle qui elles sont véritablement. Il a prouvé, lui, qui il était. Il reversait une partie de son salaire au profit de la construction de logements sociaux. Au lieu d'avoir un jet personnel, il a préféré allouer ce budget à l'achat d'un hélicoptère médicalisé avec salle d'opération, placé au milieu du pays pour sauver les accidentés. Et au lieu d'occuper le palais présidentiel, il a continué à vivre dans sa ferme modeste avec sa femme, Lucia, sa chienne, qui avait trois pattes, et il se déplaçait dans sa vieille coccinelle. Pour les plus jeunes, une coccinelle, c'est une Volkswagen. Et alors, quand il recevait des journalistes, on pouvait voir circuler ses poules en arrière-plan, ce qui était quand même assez atypique. C'était un formidable orateur, mais pas à la Castro. Il parlait lentement et était un défenseur de la sobriété, de la nature et de la dignité humaine. Il disait « Soit tu parviens à être heureux avec peu, car le bonheur est à l'intérieur de toi, soit tu n'y arriveras pas. » Il disait aussi « Ceux qui ont peu ne sont pas pauvres. Les pauvres, ce sont ceux qui veulent tout avoir. » Il réprouvait cette société de consommation avec ces mots « Quand tu achètes quelque chose, tu ne l'achètes pas avec du fric, mais avec le temps que tu as perdu pour l'obtenir. » Libre est celui qui dispose de temps pour faire ce qu'il aime. Encore une pour finir. Dans mon jardin, cela fait des décennies que je ne cultive pas la haine. La haine nous rend stupides, car elle nous fait perdre l'objectivité. La haine est aveugle, comme l'amour. Mais l'amour est créateur, tandis que la haine nous détruit. Voilà, donc je vous invite à écouter une entrevue qu'il avait faite pour le film de Yann Arthus-Bertrand, Home. Vous pouvez trouver ça facilement sur YouTube, mais il y a d'autres entrevues d'ailleurs. Et je parie que certains comme moi tomberont amoureux de Pépé.
Muchas gracias, Mafalda.
C'était magnifique,
très très belle chronique. Ouais. Merci beaucoup, Mafalda. Et on est encore une fois très heureux de te retrouver autour de cette table dans ce studio.
Et en vrai.
Ah oui, autour de cette table, dans notre studio, ça veut dire en vrai, c'est la même chose. Ça. Bravo, Jack.
Mais souvent, c'est une bande.
Mais oui. On passe de l'autre côté de la table, le micro à Vincent Turban, notre mélomane invétéré.
Salut à toi, aventurier des temps modernes. Tu viens de prouver ton courage. Tu as retourné ce disque.
Chronique d'un mélomane invétéré.
Alors, un petit hommage à un grand monsieur qui est mort le 9 juin dernier. Monsieur Sylvester Stewart, mais nous le connaissons tous sous le nom de Sly Stone. Donc, inventeur du funk moderne. Et je peux vous assurer que certains musiciens comme Lenny Kravitz ou Prince lui doivent beaucoup, énormément.
On t'écoute.
Sly and the Family Stone. La réponse de la côte ouest des États-Unis au monumental James Brown est une joyeuse et délurée tribu multiraciale, avec à sa tête le génial et excentrique Sylvester Stewart, alias Sly Stone. Créateur du funk dans sa forme moderne avec ce mix détonnant de soul, de rock et de psychédélique. Sly and the Family Stone est la formation la plus populaire de la fin des 60s, début 70s. Formé autour de Sly Stone à la voix, son frère Freddie à la guitare, sa sœur Rosemary au piano, Cynthia Robinson à la trompette, Jerry Martini au saxophone, Larry Graham à la basse et Greg Errico à la batterie, en 1966 à San Francisco, le groupe détonne visuellement et musicalement par rapport aux productions de l'époque, en repoussant toutes les barrières et surtout en se forgeant une réputation hors pair dans la région de la baie de Frisco et d'Oakland. Convaincu du potentiel de l'ensemble, Clive Davis, le patron de CBS Epic, les signe sur son label en 1967 et la Family Stone sort son premier album, A Whole New Thing, passé inaperçu. Il faudra attendre 1968 et le succès de Dance to the Music numéro 8 des charts pour que le groupe voie s'ouvrir les portes du succès. L'année 1969 est celle de la confirmation de la formidable marche en avant de la formation. Stand est un recueil à la fois joyeux, optimiste et politisé, novateur sur le plan sonore, avec cette pulse rythmique à la limite de la trance, fortement marquée, où la basse prend le dessus. Fort de cette aura de crédibilité, Sly and the Family Stone sont invités à jouer au célèbre festival de Woodstock, une prestation de premier ordre qui deviendra un moment historique. Hélas, les excès, les abus de drogue et les pressions politiques exercées par certains Black Panthers noircissent progressivement le paysage. Sly Stone pète les plombs et se déconnecte lentement, mais sûrement de la réalité, par une consommation gargantuesque de cocaïne et de PCP. Ajoutez à cela les fréquentations louches, le comportement de diva de Sly Stone, les concerts manqués, ce qui a pour conséquence la désintégration de la famille Stone. Entre 1969 et 1971, un 45 tours, un best-of et surtout l'aventure éphémère Stoneflower Records, qui s'avère au final un échec industriel cuisant, The Family Stone est KO debout et incapable de se relever. Greg Errico part en 1971, suivi un an après par Larry Graham. Entre-temps, le sombre et pessimiste vers The Riot Going On sort, en partie réalisé par Sly Stone en personne, chant, basse, batterie, clavier, et aidé par quelques amis musiciens, Herbie Hancock, Billy Preston, Ike Turner, Bobby Womack. Dans un éclair de lucidité toute relative, Sly Stone enregistre son dernier grand disque avec une Family Stone remaniée, le syncopé et complexe Fresh en 1973. Mais la dégringolade continue inexorablement, aussi bien sur le plan personnel, un mariage éclair avec le top model Cathy Silver en 1974, et musical, car les albums suivants ne sont pas à la hauteur de leurs prédécesseurs. Précurseur en son temps, Sly Stone est devenu passé de mode, dépassé par toute une génération de nouveaux groupes et balayé par la tornade disco auquel Stone essaie d'accrocher le train en marche avec une relecture de ses anciens titres à la mode Pumchak, l'atroce Tenure Too Soon, sorti en 1979. Interpellation, scandale, toxicomanie mènent désormais le quotidien de Sly Stone qui devient oublié de tous en ce début des 80s. Après une brève collaboration avec George Clinton et Anil Tindisk en 1983, Sly Stone décide de ne plus enregistrer et tente de manière embarrassante à revenir sur le devant de la scène entre concerts catastrophiques et I'm Back Family and Friend paru en 2011, album qui n'insulte à son œuvre passée. Mais floué depuis des années par un producteur qui s'accapare ses royalties, Sly vit dans la précarité. En janvier 2015, Stone remporte son procès après des années de lutte acharnée, une triste fin pour celui qui tutoyait les hautes sphères du succès. Malgré ses failles personnelles, Sly Stone possède un patrimoine artistique et musical qui ne doivent pas amener à négliger l'importance et la contribution apportée à la musique populaire américaine. Alors j'ai quelques petites anecdotes sur notre protagoniste.
On n'écoute pas Dance to the Music d'abord.
On écoute d'abord Dance to the Music.
Allez, hein,
allons.
On fait ça.
Ah bah oui.
Allez,
je veux
Dance
bien,
to the Music, Captain, et on parle de Sly juste après.
Et oui, comme le temps passe. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune.
Thank you.
Dépêchez-vous
de rester jeune.
Dance to the music, un Sly Stone. Je dois préciser que pendant la diffusion de ce morceau, Vincent Tardot a été pris d'un tremblement de la jambe. Je pense que c'est le...
Absolument, c'est le rythme.
C'est le rythme, c'est ça.
Et un balancement de la tête aussi.
Irrépressible, hein, quand on écoute ça. Vincent Turban, tu as quelques anecdotes, je crois, à nous conter concernant Sly Stone.
En effet, oui, j'en ai deux petites qui me viennent en tête comme ça. Alors, Sly Stone au festival de Woodstock. La programmation ne s'est absolument pas déroulée comme prévu suite à pas mal de problèmes techniques, d'ordre technique. Donc, l'ordre des passages de groupe a été totalement chamboulé.
Un gros bordel.
C'était vraiment le bordel, c'est le cas de le dire. Et Sly Stone, en fait, attendait son tour, mais il attendait, eut-il, je suis pas encore prêt, je le sens pas. Et puis, il leur tourne, les groupes passent, et puis... devant son comportement un peu capricieux, son comportement de diva, il y a un des organisateurs du festival qui a carrément secoué les puces, quoi.
Ouais, ouais.
Donc, l'air de dire, bon, maintenant c'est bien pour tout ça, mais maintenant faut y aller. Donc, résultat des courses, piqué au vif, monté sur scène avec la Family Stone, et quel concert d'anthologie. J'invite les auditeurs, les auditrices...
À se procurer le film ou
Ah ouais, franchement, il faut voir la prestation, parce que c'est vraiment quelque chose. Quand on voit tout le groupe à l'unisson, qui bouge comme un seul homme, et puis quand on voit 500 000 de personnes pratiquement debout quand
ouais,
même,
ouais.
Parce que c'était quand même un sacré bonhomme. Et puis Sly Stone, je dois dire aussi que... Il s'occupait aussi de groupes de rock psychédéliques aussi. Hein, il a travaillé avec les Beau Brummels, il a aussi travaillé avec Jefferson Starship, donc futur Jefferson Airplane, excusez du peu.
Ok.
Et la deuxième anecdote, ouais. Donc c'est la rencontre Sly and the Family Stone, Bob Marley and the Wailers. Uh-huh. Donc en 1973, les Wailers sont engagés par la Family Stone pour ouvrir les concerts du groupe. Malheureusement, ça tourne court. Au bout de 5 shows, les Wailers sont débarqués à Las Vegas, précisément.
Pour quelle raison ?
Eh bien, ce qui s'est passé, en fait, d'un côté, on a le staff de Sly qui disait que les Wailers avaient un drôle d'accent, jouaient mou, faisaient une drôle de musique et n'étaient absolument pas en communion avec...
Ils faisaient du reggae, les gars.
Ils faisaient du reggae, voilà. Et... Ça, quand même. Et mais d'un autre côté, on a un autre son de cloche. C'est plutôt cette fois-ci l'entourage des Wailers, qui disent.
Ils jouaient trop fort.
Non, bien au contraire, qui jouaient même mieux que la Family Stone. Grosso modo, okay. Ils auraient volé la vedette à Sly and the Family Stone. Donc en fait, okay. On ne sait pas vraiment, en tout cas toujours est-il que...
Qu'ils n'ont pas joué longtemps ensemble.
Ils ont joué que 5 dates, ils se sont fait débarquer comme ça, comme des malpropres à Las Vegas, mais on connaît la suite
ouais.
pour Bob Marley,
pour les uns et les
formidable,
autres.
La super carrière qu'il a eue jusqu'à son décès le 11 mai 1980.
Tout à fait, merci beaucoup Vincent Turban pour toutes ces anecdotes, ces belles anecdotes autour de Sly Stone.
Et oui, comme le temps passe... Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune.
Hey !
Le mixage est une étape cruciale au moment de l'enregistrement d'un album. Une voix trop en avant, une batterie faiblarde, des cuivres perdus au lointain et votre disque ne ressemble plus à rien. Vincent Tardot, quant à lui, mixe au mieux les influences qui l'ont façonné. Un peu de Bach ou de Ravel, un soupçon de Prince, quelques vers de poésie, du Ferré en quantité, pour la musique et pour les mots. Et de temps en temps, un bon groove de basse, une vie destinée à la musique. Rien que la musique. Est-ce que ça résume assez bien ta personnalité, Vincent Tardot ?
Il y a aussi la scène du théâtre que j'ai pu connaître avant d'embarquer pour le Québec. Puis il y a l'écriture toute seule, toute nue.
La poésie aussi.
Les journaux intimes, etc. Il y a toutes sortes de formes d'art qui m'intéressent. J'aurais pas assez d'une vie pour explorer tout comme il faut, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut y toucher.
Essayons de bien remplir celle qu'on a déjà.
Absolument, absolument.
Est-ce que tu fais ce que tu fais grandement d'ailleurs, de bien la remplir?
Ben, j'en fais tous les jours de ma vie. J'ai beaucoup enseigné aussi.
Oui.
Ça, on en a pas parlé. Là.
Pas encore.
Non,
pas
non,
encore.
Non, 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 non. J'ai beaucoup enseigné. J'ai enseigné le piano 25 ans. Et ça m'a permis de chanter et de jouer exactement ce que je voulais.
Ouais.
Ça donne un peu une liberté.
On va écouter des extraits de ton album tout à l'heure. Il y a une trentaine d'années, tu as choisi l'exil.
Absolument. L'exil au Québec. L'exil volontaire, ouais. En 94.
Exilé volontaire, le titre d'une de chanson de Salisbury Hotel.
Ouais. Et c'était un des... Un grand changement dans ma vie, évidemment. Et, ouais. Après mes années théâtre à Paris, il a fallu que je m'envole vers des horizons plus légers et plus vastes, parce que la vie musicale à Paris était, moi qui viens d'un mettons, qui est un background classique, c'était vraiment, vraiment pas évident, parce qu'il y a une espèce d'élitisme à Paris, en tout cas. À la fin des années 80, au début des années 90, qui était assez contraignant, et j'avais vraiment besoin de déployer mes ailes pianistiquement et musicalement sans qu'on m'emmerde avec des concepts, avec des il faut faire cette année-là avant, etc. Non, 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 non. Moi, j'avais besoin de beaucoup de liberté, et puis ça me permettait de m'émanciper personnellement vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de toutes sortes d'aspects, qui fait que quand je suis arrivé le 1er septembre 94 à Montréal, ça a été une immense libération, et ça a été c'est ça, une grande liberté. J'ai pu vraiment faire en 30 ans beaucoup beaucoup de choses. J'ai eu dans le désordre 3 beaux enfants, je les ai pas fait tout seul. J'ai eu 3 diplômes universitaires, un en piano, un en composition de musique de film et un en composition, une maîtrise à l'Université de Montréal. J'ai fait donc cet album de chansons, 10 chansons, c'est une des choses dont je suis le plus fier. C'était vraiment du homemade total.
Ouais.
Et
ce que tu n'avais pas réussi à faire en France?
Non, pas du tout.
Parce qu'en France, on va rien cacher à nos auditeurs, avec Vincent on se connaît depuis au moins, depuis le siècle dernier.
Et à
l'époque, quand on était beaucoup plus jeune, on faisait des chansons, je faisais les paroles, il faisait les musiques.
C'est ça.
Et quand il est parti au Canada, il a dû considérer que j'écrivais pas assez bien. Il s'est mis à tout faire tout seul.
Bon, non, c'est même pas ça. Mais j'avais pas le téléphone à l'époque. Et
c'est
alors...
ça.
Il y avait pas Internet en plus.
Mais non.
Il y avait pas encore Internet.
On s'envoyait des lettres à l'époque.
Mais ouais.
Il fallait des timbres, des enveloppes. Ah. Enfin bon, c'était tout autre chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un coup de visio, on a l'impression qu'il est dans le salon, quoi.
C'est vraiment une autre vibe à l'époque.
C'était autre chose. Donc t'arrives au Canada et ça te vient de faire toi-même tes propres chansons.
Oui, en fait, ça a commencé, c'est toujours comme ça que ça commence. T'as une fille que tu trouves super jolie, et tu dis, putain, il faut absolument que je fasse une chanson pour elle, et résultat, clac, j'en fais une pour elle. Bon, ça n'a pas du tout marché, la chanson a fonctionné, mais enfin...
Moins bien que la fille.
Bon. Ouais. Et après, 6 mois après, il y a un copain des résidences de l'Université de Montréal qui me prépare un petit show.
Ouais.
Le 8 mars 95, et je décide de faire ma première chanson Exilé volontaire,
ouais.
Avec ça. Puis il y avait toutes sortes de reprises. J'ai même fait de la guitare sur les tunes de Renaud. J'ai repris du Gilles Vigneault, j'ai repris du Léo Ferré, j'ai repris toutes sortes de grands auteurs, compositeurs, interprètes que j'adore. Et c'était mon premier show,
ouais.
Officiel.
Ouais.
Donc j'ai 30 ans de carrière. Bon, c'est une carrière en dents de scie, on va pas se manquer, surtout à côté du palmarès de Mademoiselle en face de moi là. Oh, yo, yo, yo.
Chacun sa carrière, comparaison n'est pas raison.
Comparaison n'est pas raison.
Et ce premier album, en fait, tu crées tu composes ces chansons et tu sors ce premier album, il y a quand même un petit moment, mais combien de temps il t'a fallu pour
15 ans. Oui. Il m'a fallu 15 ans.
C'est un peu du Gérard Manset.
Je sais pas, je connais pas ce jeune homme, mais j'ai fait une chanson, puis une deuxième, puis une troisième, puis une ébauche par-ci, puis tu te retrouves à un moment donné avec l'urgence totale et absolue de devoir sortir un premier album, quoi qu'il arrive, quoi que ça coûte.
Un soir à Montréal.
Mais oui.
Un soir à Montréal, dans le bleu de l'hiver, libérant mes désirs au gré de mes fortunes, je me voyais marcher au milieu d'un désert, peuplé d'âmes voilées sans en aimer aucune. Décor immense aux faux airs de glacier, j'avançais au hasard, découvrant chaud et froid, éclairé de lampions et de lune en quartier, pétri de solitude et de honte et d'effroi. Avais-je un rôle à jouer dans cette absurde scène, étant aveugle et sourd à ce théâtre-ci, anonyme étranger, plein d'amour et de haine, et ruminant tout bas d'infinie litanie. Sur le chemin, espérant un sourire aux odeurs de nickel, et souriant un peu, mais ne leur donnant rien, je comparais nos sorts pour sombrer de plus belle. Quel astre en ce pays pouvait guider mes yeux, écorché par le bruit et noyé par les larmes, mon sang battait si fort que j'implorais mon Dieu de me permettre enfin de déposer les armes. Quelle route empruntée qui ne soit une fuite, quand la tempête en soi fait rage à tout moment, comment ne pas vouloir en finir au plus vite, quand la folie s'approche et dans la sang riant. S'apaisant peu à peu, je regagnais ma chambre où tout semblait normal, vaincu par un sommeil au souffle délicieux, rêvant à mes amours un soir à Montréal.
Comme le temps passe. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune.
Un soir à Montréal, Vincent Tardroux, extrait de l'album Salisbury Hotel. Comme on peut l'entendre sur ce titre-là, on n'est pas tout à fait dans la variété, on n'est pas tout à fait dans... Enfin, on est dans autre chose musicalement. On sent des influences qui viennent de la musique française classique, j'entends. Est-ce que c'est le chemin ?
Il y a beaucoup d'influences, il y en a trois majeures, et ça, je tiens ça de mes parents qui tous les deux aimaient, adoraient la chanson française, qui aimaient énormément la musique classique, et mon père en plus de ça était fan de jazz. Mm-hmm. Fait que j'ai baigné là-dedans toute ma vie, toute ma jeunesse, et ce que ça a donné, parce que tu choisis pas en fait, à un moment donné tu te laisses guider tout simplement. Tu laisses les vannes s'ouvrir, et puis il se trouve que j'ai formé un trio avec saxophone, soprano, alto et puis ténor, en alternance. Il y avait une contrebasse et puis moi je suis au piano à chanter. Et donc il y a des sonorités de jazz évidemment. Mm-hmm. Il y a des sonorités au niveau de l'écriture qui sont plus du côté de la musique de chambre.
Oui.
Parce que ça c'est totalement un trio probable en musique de chambre. Mm-hmm. Et puis évidemment moi qui considère Ferré comme le plus grand, avec Vigneault, avec Desjardins, puis avec Bachung, et puis Renaud. Tiens, bah, ce serait mon quintet gagnant là.
Écoute, chez les Français.
Chez les francophones.
francophone.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, il y a forcément un mélange des trois. Donc, moi, j'écris beaucoup. J'écris les notes. Ouais. C'est-à-dire, je présente des partitions.
Ouais, oui.
On n'est pas en studio en disant, écoute, essaye-moi quelque chose. Hein, et puis, on ne travaille pas. Non, non, je donne les partitions, tu me travailles ça. Mmh. Et c'est à partir des partitions que là, on essaie de faire
En arrivant en studio, tu sais déjà comment ça va sonner.
Quelles
notes vont être jouées parce que tu les as écrites.
Il n'y a pas une seule nuance, il n'y a pas une seule articulation qui ne soit pas écrite.
Mm-hmm.
Mais là, c'est là que c'est extraordinaire de travailler avec des musiciens, c'est qu'ils te proposent des choses avec ce matériel-là, des choses que tu n'avais pas imaginées. Mm-hmm. Puis ils ont une couleur.
Ouais.
Isabelle Choquette au saxophone, elle a un son de saxophone ténor qui est fantastique. Tu écoutes ça, tu te dis, tu ne l'avais pas entendu aussi beau dans ta tête. Parce que tu entends un exemple, une idée de saxophone ténor. Et puis là, tu as quelqu'un qui te le joue, là, c'est extraordinaire.
Mm-hmm.
Jean-Félix Maillot à la contrebasse, qui est très, très célèbre là-bas, c'est un des grands contrebassistes au Québec. Il te sort des façons de bouger, puis te fait des sonorités un petit peu en claquant les cordes sur... Tu n'entends pas tout quand tu es avec eux en studio. Enfin, je dis en studio, c'était chez nous. Hein.
Mais quand tu enregistres, en tout cas.
Quand tu enregistres, ils t'apportent quelque chose que tu n'aurais pas pu prévoir. Ça, c'est beau.
Mm-hmm.
Ça, c'est vraiment des belles rencontres à ce niveau-là. Mais il faut que toutes les notes, toutes les articulations, toutes les nuances soient écrites de A à Z.
Jamais un musicien t'a proposé ?
Non, non. Mais dans les prochains essais, il y aura probablement des espaces d'improvisation.
Mm-hmm.
Ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. J'ai pas encore osé, mais genre dire de telle mesure à telle mesure, là, essaye-moi quelque chose, mm-hmm. là, et puis ça va être free for all. Juste, voilà les accords et tout. Donc il y a une notion de... Je veux explorer ça à un moment donné, parce qu'il y a des choses extraordinaires qui peuvent sortir de là, évidemment.
C'était une volonté artistique d'avoir une espèce de dénuement comme ça, d'avoir si peu d'instruments sur cet album.
Oui, oui,
c'est
oui.
une question...
Oui, oui, oui. Non. C'est pas une question de... C'est...
Pratique
non,
ou production.
Non. Oui, bien sûr, il y a ça. Mais il y a le côté être capable de générer et puis de faire le maximum avec le minimum. J'adore cette idée-là.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, tu as trois instruments, puis il faut que ça sonne comme un orchestre. Quoi.
C'est comme pour les soupes. Les soupes, c'est trois ingrédients maximum. Trois légumes maximum.
C'est ça.
Voilà.
Pour faire le potage, là. Mais absolument.
L'ail non plus. Mais sinon, pour les soupes, c'est trois.
Trop d'ingrédients gâtent la sauce, on dit en cuisine.
L'image me plaît. Donc voilà, c'est ça. Faire le maximum avec le minimum. Ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et puis, comme le grand maître absolu de tout l'univers, c'est Maurice Ravel, quand tu vois ce qu'il est capable de faire avec un trio, avec deux instruments, même avec un seul, tu te dis, non, c'est ça, c'est la voie à suivre, absolument.
Ta culture classique, parce que tu viens, toi, tu as commencé par le piano, étant jeune.
Ouais.
Donc, tu as joué tout ce qu'on peut jouer, le Bach, le Chopin, les Mozart, les Beethoven, et ainsi de suite.
Exactement. Ouais, absolument. Et puis, le pic de ma forme pianistique, c'était quand j'ai joué deux concertos pour piano et orchestre. Le premier, c'était le Ré mineur de Bach. Et puis, le deuxième, c'était le premier concerto de Beethoven. Ça, c'était...
Au Canada.
Ouais, au Canada.
Ouais.
Ouais, c'était avec un orchestre de jeunes et tout. C'était fantastique.
Ouais.
C'était Ludovic Morlot, qui était le grand chef, qui est devenu un grand chef d'orchestre. Et oui, et c'était un copain à l'époque. Il m'avait dit, tu sais, l'orchestre des jeunes de Shawinigan, tu veux pas faire un concerto? J'ai dit, j'ai le premier de Beethoven et tout. Puis on a embarqué là-dedans. Hein.
Est-ce qu'on a une trace de ça, hein?
Écoute... À l'époque, il n'y avait pas de cell phone, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de rien. J'ai téléphoné à plusieurs personnes à Shawinigan et j'ai aucune trace de ça. Et puis ça se peut pas d'ailleurs, mais en tout cas, bon, c'est pas grave.
Ouais, mais ça a le mérite d'exister.
Ah, absolument, c'est un des grands moments de ma vie.
Donc tu as joué travaillé les classiques.
Oui,
mais,
j'ai travaillé les classiques.
Mais au-dessus de tous ces classiques, il y a Maurice.
Ah ben Ravel. Oui, puis ça tombe bien, tu sais, la 150e année de sa naissance, là. Oui, Maurice Ravel, c'est la référence absolue, il n'y a rien qui touche ça, de près ou de loin. Là.
Et pourquoi?
Parce qu'il a...
Qu'est-ce que moi,
je ne suis pas du tout musicologue, hein, attention, hein, c'est vraiment pour moi que je parle. Il a touché, c'est le seul, Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des, compositeurs que j'adore, qui sont fantastiques. Je veux dire, c'est, quand tu regardes Prokofiev, quand tu regardes Fauré, quand tu regardes Bach, c'est comme, oh my god, Debussy, là, tu sais, Satie aussi. Mais quand tu écoutes Ravel, c'est le summum de la liberté absolue avec une rigueur classique impeccable. Et quand tu arrives à mêler les deux, ça fait passer beaucoup, beaucoup de grands compositeurs pour des amateurs géniaux.
Géniaux.
Ah oui, oui. D'accord. Ah oui, oui, non, non. T'as Ravel, ouais. Et puis à un moment plus loin, là, tu sais, quelque part, là,
t'as les autres.
T'as tous les autres, voilà.
J'ai réentendu il y a quelques jours un extrait de Daphnis et Chloé.
Oh là, t'es fou ou quoi ?
Et j'ai compris pourquoi Ravel était aussi important pour Léo Ferré.
Ok, oui.
Parce qu'il me semble, dans les 10 ou 15 dernières années où Ferré était devenu totalement indépendant et composait et arrangeait toutes ses œuvres lui-même, j'ai retrouvé des sonorités, des phrases musicales qui m'ont fait penser à du Ravel dans les chœurs et ainsi de suite.
Oui,
c'est un compositeur pas tout à fait léger. Captain Nifle, Salisbury Hotel. Possible de l'entendre, s'il vous plaît.
Début des fêtes, mon piano déserté, le réveil un peu dur. Carnegie Hall en tête, Motown et son café, Steinway et ses dorures. La rue 57, après s'être manqué, nom de l'ancêtre au mur. 13e étage en fait, où je posais vanner mon sac et mes pelures. J'y retrouvais mon père que je n'avais pas vu depuis plus d'une année. Plutôt heureux et fier de m'être bien battu, moi le fils envolé. Un tour d'hélicoptère autour de la statue dite de liberté. Et un bout de croisière qui mettait l'île à nu, nous étions enchantés. L'Empire State en feu pour les 80 ans des beaux yeux de Frankie. Hommage fabuleux ou spectacle affligeant, j'étais trop indécis. Manhattan des flots bleus, son rythme hallucinant, sa faune et ses taxis. Et mon cœur au milieu qui, opéra aidant, palpitait à l'envie.
Et oui, comme le temps passe. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune.
Salisbury Hotel de Vincent Tardreau, extrait de l'album Salisbury Hotel. J'ai l'impression de me répéter là.
Non, ça va.
Ça va.
Tu dis les bonnes informations.
Ça va, c'est bon, alors ça va, on est content. On parlait de. On a évoqué Léo Ferré tout à l'heure, c'est une source d'inspiration pour toi. C'est un artiste que je sais que tu as et que tu aimes toujours beaucoup.
Oui,
qu'est-ce qui te
beaucoup.
Touche? Alors, ça tombe bien, on est un peu chez lui ici, parce que regarde, ah non, tu le vois pas d'ici, mais dans le couloir, il y a la photo de Léo qui nous regarde.
Ok.
Il veille sur nous.
On le salue.
Voilà. Merci de nous accueillir, Léo. Qu'est-ce qui te touche particulièrement dans l'œuvre ou dans le travail de Léo Ferré?
La première chose, c'est la voix. Physiquement, quand j'écoute la voix de Léo Ferré, Ça me met mieux. Mm-hmm. C'est que il y a quelque chose qui se détend en moi. Simplement écouter sa voix. Et ensuite, quand j'écoute certaines chansons, parce que Léo Ferré, il a le sens de l'image et le sens de la formule, pas à peu près. Et non seulement les chansons comme La Nuit, comme Madame la Misère, comme Le Quartier Latin, je veux dire, je pourrais évidemment en citer des dizaines. Mais il n'y a plus rien. 73, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Mm-hmm. T'écoutes ça, là, jeune adulte, avec le casque bien enfoncé dans ton casque, et puis t'écoutes ça, et il n'y a plus rien à fond. Ah, tu ressors, t'es un autre homme, là.
Ouais.
Complètement, là. Parce qu'il a eu une façon de sortir la Une espèce de rage, mais une rage très, très lucide. Il y a une lucidité extraordinaire et le sens de la formule qui est fantastique. Alors, tout ça mêlé avec ses orchestrations derrière, parce que c'était l'époque où il commençait à orchestrer lui-même, il revenait ça, à ça. Alors, c'est vraiment fantastique.
Oui.
Et tu l'as peut-être
vu en concert aussi.
Je l'ai vu en concert. Voilà. Avec toi, d'ailleurs, au début des années 90, 91. C'était au TLP.
De Jazzé. Ouais.
Écoute, on s'est démerdé avec. On était quatre.
Oui, quatre ou cinq.
On était quatre. Ouais, on s'est fait dire, les coulisses, elles sont pas accessibles. Tu parles, on est passé par la bande. On arrive dans la grande salle, il y avait des journalistes, il y avait des gens et tout. Et puis il y a une petite salle, on est allé au fond. Et puis qui c'est qu'il y avait? Léo Ferré. Il nous voit rentrer, il se lève, il se dit. Bon, champagne. Et là, il prend le champagne. Il y a quatre gobelets de plastique.
Non, il y avait un gobelet.
Non, un chacun gobelet. Avait son gobelet.
Non,
c'est pas vrai.
Il y avait deux gobelets.
Ah bon, il y avait deux. Bon, alors en tout cas, on prend le champagne avec Léo Ferré. C'est pas merveilleux, ça.
Non, mais il a fait mieux que ça. C'est-à-dire que comme il n'y avait pas de gobelet pour tout le monde, il a rempli un gobelet et il nous a dit on va faire comme à la messe. Et puis il nous a fait boire dans son verre chacun notre tour quoi. Enfin on n'a pas eu un verre, il nous a donné sa bénédiction en fait. C'était assez formidable. Te souviens-tu de ce qui s'est passé ensuite?
Ben il est passé à côté de moi parce qu'il y a Maria qui passe la tête et puis qui dit Léo il faut que tu viennes voir, il y a des journalistes.
Non, elle lui dit pas comme ça.
Ah bon?
Non, elle lui dit pas comme ça.
Elle dit Léo faut que tu viennes, là il y a des journalistes. Oui, ben, c'est-à-dire au début elle lui dit simplement puis ensuite elle l'engueule. Alors il se lève, il bougonne et il passe devant moi et il me dit quelque chose. Alors t'as une meilleure mémoire que moi apparemment, il me dit...
T'es marié, toi?
Bon, celle-là, on l'avait bien.
Voilà.
Et je lui dis non, hélas, ou quelque chose comme ça. Ouais. Et puis il me dit, continue.
C'est ça, exactement.
Et il s'en va.
Reste comme ça.
C'est ça, reste comme ça, voilà.
Et Léo Ferré qui a sauvé cette radio libertaire. On peut raconter.
Bien sûr.
C'était en 1981. Il y avait Georges Filliou qui était ministre du...
De la communication.
Il voulait enterrer... Radio Libertaire, qui n'avait plus un sou. Léo Ferré, de son vivant, alors j'ai plus l'année, mais il a organisé deux concerts différents. Et il y avait 15 000 personnes. Il a donné l'intégralité
des recettes
pour sauver cette radio.
Je crois pas me tromper en disant qu'à chaque fois qu'il venait chanter à Paris, il y avait toujours un petit geste de la billetterie en direction de Radio Libertaire aider la radio à vivre et à survivre, effectivement. Un homme Généreux.
Absolument.
Un homme généreux. Tu as eu d'autres influences de... Oui, parce qu'on parle de Léo Ferré, mais il y a eu d'autres influences de chansons françaises ou francophones dans ton éducation à la chanson ?
Oui, quand je suis parti au Québec, juste avant, j'ai découvert Desjardins qui explosait en France.
Richard ?
Oui, Richard Desjardins.
Mm-hmm.
Alors...
Et qu'on ne connaît pas si bien que ça, en fait.
Ben non, c'est-à-dire qu'il a été connu en France au tout début des années 90, parce qu'il y a Cabrel qui avait repris « Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours ».
Oui.
Ça, c'est une chanson de Desjardins, ça.
Ah oui.
Ouais. Donc, okay. il avait repris cette chanson-là, puis ça l'avait lancé en France. Alors, il a tenu un peu, mais comme je parlais en antenne, quand tu es totalement québécois, tu as un parler qui fait que on t'écoute chanter, c'est très beau, etc., mais tu te sens beaucoup moins touché personnellement au niveau de...
Ouais.
Ce qui fait que on l'a écouté peut-être pas tant que ça, mais moi, je l'ai écouté beaucoup après, je l'ai vu plusieurs fois sur scène et tout, et j'ai même une petite anecdote. Je suis allé à un concert de charité à Montréal, c'était à la fin des années 90, et il y avait plusieurs artistes, et notamment, il y avait Desjardins, et il y avait Vigneault, et à la dernière chanson de Vigneault, t'as Desjardins qui l'a accompagné au piano. Alors là, je me suis dit, ça y est, j'ai tout vu, c'est bon. Les deux plus grands de la chanson québécoise,
ouais.
Pour moi,
oui, oui.
Ensemble, sur une même scène. Ouais. Et puis, juste avant, il y avait Loco Locas, qu'on ne connaît pas du tout ici, parce qu'on ne peut pas comprendre un mot de ce qu'il dit si on ne connaît pas le québécois. Et c'est trois artistes qui font une espèce de rap très engagé, très littéraire, fabuleux.
Ok, mais avant de partir au Québec, il y avait Bachung aussi.
Bachung, extraordinaire.
Ouais.
Ah oui. Oui. Okay.
Ouais.
Bachung, c'est un univers merveilleux. C'est des guitares. C'est tu sens le petit gars, mais qui a comme un univers poétique. Et puis il arrive à te faire des jokes à deux balles dans ses chansons. C'est comment est-ce qu'il arrive à mêler tout ça? Je ne le sais pas. Et je l'ai vu à Montréal deux fois. Et notamment en 97. Et c'était un souvenir que j'aurai toute ma vie. C'était extraordinaire. Il était tout en noir, en cuir et tout. Les manches courtes. La classe intégrale.
Ouais. C'était... Oui, sa voix aussi.
Ah oui, là, tout. Il avait, lui, là, c'est vraiment un artiste complet et... C'est merveilleux.
Il avait la chance au niveau des textes d'être plutôt bien entouré.
Oui,
entre
oui.
Jean Fauque et Boris Bergman.
Pierre Grillet.
Pierre
Grillet, Madame Rêve
aussi. Aussi, Pierre Grillet. Oui.
Je l'ai rencontré la semaine dernière, c'est pour ça que je l'ai rencontré.
Il a écrit une chanson pour toi ?
On est en train de faire une chanson.
Eh ben voilà.
La boucle est bouclée.
Voilà. Pierre Grillet est même venu à Radio Libertaire, mais bien sûr. Tout le monde connaît Pierre Grillet, finalement. Super botteur, oui, effectivement. Ouais, effectivement. Et la chanson internationale aussi, toi, tu es très Prince, Stevie Wonder, Genesis, c'est cette pop-là qui te touche plus que...
Ouais, absolument. Dès que c'est... il faut que ce soit lyrique, il ne faut pas que ce soit gnangnan. Donc, dès que ça dépote, genre
c'est quoi,
rock...
Gnangnan.
Je ne vais pas me faire des ennemis.
si, vas-y.
S'il n'y a que deux accords, j'y arrive pas.
Ah bon ?
Alors, sauf si la chanson est géniale, parce qu'il y en a quelques-unes. Mais la plupart du temps, il faut que... Mais ça, c'est chiant, tu sais, les musiciens qui ont un background classique, qui ont écouté Prokofiev, qu'est-ce que tu veux faire ?
Oui.
J'essaie de sortir de ça et puis de revenir à l'essence de ce qu'est la musique, tu sais, deux, trois accords à la guitare, parce que ça peut être absolument génial. Et non, mais tout ce qui est rock progressif, tout ce qui est rock, même les Beatles, c'est pas mal.
C'est pas mal. Ils ont
ils ont fait des trucs pas mal.
Ouais.
Mais
plutôt vers la fin que plutôt Love Me.
Oui, voilà, tu vois, complètement.
Ouais.
Complètement. C'est toute leur ouverture avec l'album blanc, etc. Puis le rock progressif des années 70, que j'adore, que ce soit c'est ça, Genesis ou Gentle Giant, ça c'est vraiment. Ils sont en pleine recherche. C'est-à-dire que la musique est une aventure intégrale dans leur cas. Tu comprends ? C'est ça que j'adore dans la musique.
T'es plus, Vincent Turban, t'es plus Love Me Do ou l'album blanc
Eh bien, en ce qui concerne les Beatles,
oui.
J'ai mis beaucoup de temps à apprécier leur univers musical.
Ok.
Donc, c'est récent, en fait. J'apprivoise j'apprivoise la musique des Beatles et je dois dire que moi je suis plus dans la dernière période. Il y a des morceaux qui me touchent particulièrement, là qui me viennent en tête pour l'ambiance générale, mais surtout parce que ça me parle beaucoup en tant que bassiste aussi, le formidable travail de Paul McCartney, qui est quand même un des meilleurs bassistes de l'histoire du rock, avec une finesse, une mélodie.
C'est Lemmy Kilmister, le plus grand bassiste de rock.
Ah ouais.
Non, je plaisante, Attention,
attention, ne lançons pas le débat maintenant. Hein.
Non, c'est débat, parce que je pense qu'on est encore dedans.
Il est superlatif, en fait.
Et donc, j'aime beaucoup, moi, la dernière période. Alors, il y a des morceaux qui me parlent beaucoup. J'aime bien Hey Bulldog.
Ok.
Ça, j'adore.
Okay.
Don't Let Me Down aussi.
Ouais, ouais, ouais.
Je trouve cette finesse, petite touche de piano électrique Fender, signé quand même par le cinquième Beatles. Hein, faut quand même pas l'oublier, Billy Preston. Hein,
bien sûr.
C'est un sacré monsieur, lui aussi.
Ouais,
hein,
ouais,
sacré monsieur.
Et Sgt. Pepper aussi.
C'est bon aussi, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que généralement, les Beatles, j'ai eu beaucoup de mal.
Ouais.
Et que maintenant, j'apprécie, mais alors de plus en plus, et puis en plus, ils
maintenant,
sont...
t'as beaucoup de bien, alors, si t'as eu beaucoup de mal. Maintenant, t'as beaucoup de bien avec les Beatles, c'est
ça ? Exactement, et puis ils sont surtout influencés aussi par un de mes labels que j'aime le plus au monde, la Motown.
La Motown, ouais. Stéphanie, toi, ça, plus Love Me Do ou Don't Let Me Down ?
Moi, je pense qu'il y a les démocrates de la musique, ceux qui, tu vois, vont ouvrir avec trois notes un public très large.
Ouais.
Et puis, il y a ceux qui vont s'intéresser plus au fond. Et je pense que les deux doivent être...
Mais à titre personnel, fais pas une réponse diplomatique.
Non,
fais-moi
une
réponse personnelle.
Je te fais la réponse qui est juste en la circonstance. Moi, j'adore les Beatles.
Ouais.
De toute façon...
Toute période confondue.
Toute période confondue, j'ai toute la disco... J'adore Paul McCartney.
Allez, on repart un petit peu avec un petit peu de classique. On écoute Vincent qui nous joue le premier prélude de Bach.
Comme le temps passe, eh bien dépêchez-vous de rester jeune.
Hey !
Premier prélude de Bach en do majeur interprété magistralement par notre invité Vincent Tardreau. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur sa chaîne Piano Connexion.
Oui.
C'est ça. Une quantité considérable de vidéos.
Considérable.
Il y en a
quelques dizaines pour l'instant.
C'est considérable, quelques dizaines.
Ouais, j'ai mis sur Piano Connexion l'essence de ce que j'avais fait en tant que pédagogue, pour avoir enseigné le piano 25 ans. Et j'ai composé beaucoup de morceaux et j'ai une méthode de piano personnelle que j'ai développée et ça va dans Piano Connexion. Et puis à côté de ça, il y a Vincent Tardrou, une deuxième chaîne, où là j'ai mis mon album et j'ai commencé à mettre mes compositions plus dites sérieuses.
Oui.
C'est le terme employé, mais c'est complètement c'est con. Mais on
tout est sérieux.
Ouais, c'est ça. Mmh. Et quand on fait les choses, il faut les faire sérieusement. Et c'est ma deuxième mélodie pour mezzo-soprano et piano, basée sur un poème de Baudelaire qui s'intitule Tristesse de la Lune. Voilà. Mmh. Et puis il y en aura beaucoup d'autres après, évidemment, parce que tout ce que j'ai enregistré, tout ce que j'ai comme en vidéo. Ça va débarquer sur Vincent Tardrou et non plus sur Piano Connexion.
Ok.
Je vais juste dire aux auditeurs que Tardrou, ça s'écrit T-A-R-D-R-E-W.
Oui.
Vous n'avez pas le chercher.
Ça s'écrit pas. Mais merci beaucoup pour cette app.
Bravo.
J'ai eu toutes les.
Oui, les orthographes.
Oh là là, ça a fini par Tarcheux à un moment donné.
Tardrou. Je me souviens même sur un tournage, quand on faisait de la figure quand on était jeune, il y avait un gars qui t'avait appelé Tardrève.
Ouais, c'est ça. L'avantage du Canada, c'est qu'on m'appelle Tardrou. Ouais. J'ai dit, sans l'accent, parce que je suis français. Alors, ils ne comprenaient pas. T'as un anglais, t'as un accent français, qu'est-ce que tu fous au Québec? C'est d'abord, ça. Je fais ce que je veux, et puis deux. On dit Tardrou.
Voilà.
C'est comme une espèce d'entre-deux.
Ok. T'es revenu en France dernièrement?
Oui, il y a 8 jours.
A priori, définitivement.
Absolument.
Après 30 ans de vie au Québec.
31.
Donc, ça veut dire que tu te réinstalles à Paris et que tu vas développer de nouveaux projets. Français, parisien, t'as quoi comme perspective?
À part voir ma famille et mes amis, c'est ce qui m'amène à Paris, c'est développer. Le Québec n'était plus une aventure, ça l'a été pendant 30 ans, et n'étant plus une aventure, la seule façon pour moi de sortir ce que je peux avoir à sortir, toutes les propositions, qu'elles soient poétiques, théâtrales, musicales, chansons, ça peut être qu'à Paris. Et étant né à Paris, ayant vécu quelques années à Paris, même si j'ai passé mon enfance et mon adolescence en banlieue, Paris, ça a été toujours le centre de ma vie. Donc après 31 ans, où j'ai fondé une famille, et puis que j'ai développé toutes sortes de choses, musicalement, poétiquement, etc. Mais là, je reviens aux sources pour que... Tu vois, c'est un peu comme, comme si tu déplaces des graines d'un terreau à l'autre. Mm-hmm. Puis là, le soleil et la terre, la pluie, les vents,
l'ensoleillement,
tous les éléments qui font qu'une plante grandit et puis donne des fruits, ça va être... Je change d'univers pour grandir beaucoup, beaucoup, le plus que je vais pouvoir. C'est pour ça que
je suis ici. Pour planter de nouvelles graines.
Absolument. Oui. Puis j'ai monté 3 trios. L'album, c'était le 3e trio.
Oui.
Là, à Paris, ce que je veux monter, c'est un quatuor, un quartet. Mm-hmm. Parce qu'il est temps que je me mette, que je me tienne debout, comme on peut dire, face au micro. Debout, avec piano, qui chante et qui parle aussi, parce qu'il y a des harmonies vocales aussi. Je voudrais introduire ça, parce que la musique vocale, l'harmonie vocale, c'est une des plus belles choses qui existent.
Ouais.
Contrebasse, qui chante et qui parle aussi, et puis qui joue avec l'archet. Okay. Et puis donc je lance un appel à tous et à toutes. Donc il faut qu'il y ait pianiste, qui chante, qui parle, et puis qui puisse éventuellement être à l'aise avec ce qui a à voir avec le conte. Puis ce qu'il y a à voir avec la comédie, parce que il n'y a pas que la chanson, il y a aussi le conte, il y a aussi la poésie, il y a aussi le happening, ça peut partir dans tous les sens. Tout ça très réglé, mais ça peut partir dans tous les sens. Contrebasse, avec l'archet, ou sans, ou en pids, qui parle et qui chante, et puis saxophone, flûte, qui parle, qui chante. Et il me faudrait des musiciens classiques, parce que comme je donne toutes les partitions, si tu donnes ça à un musicien de jazz...
Ouais.
Non, mais c'est pas ça. Si tu donnes ça à un musicien de jazz, il va regarder la partition et il dit « Oui, c'est quoi ma liberté là-dedans » T'as aucune liberté, parce que toi, t'as pas cette liberté-là. Mais si tu donnes ça à un musicien classique, lui, la liberté, il va la trouver de ça.
Il va trouver sa liberté.
Ben ouais.
D'accord. Et donc ça serait un projet autour de nouveaux textes, de nouvelles chansons?
De nouveau, tout nouveau, parce que, écoute, l'album, il date de 2010, donc ça fait 15 ans que je l'ai fait, et j'ai mis 15 ans pour le faire. Fait que le Vincent Tardrou T-A-R-D-R-E-W qui est sorti il y a 15 ans, mais c'est plus
tout à fait le même.
Non, plus vraiment. Là.
Et les contes, tu veux les écrire, ce sera des contes que tu auras écrit toi ou...
Oui. Peut-être qu'un jour je ferai un album hommage à Ferré. J'adorerais ça. Mais avant ça, là, je racontais des histoires à mes enfants avant qu'ils dorment. Et ils appelaient ça les histoires dans la tête. Alors j'inventais des personnages au fur et à mesure, puis ça finissait plus, ça finissait plus.
Ça c'est génial.
Fait qu'à un moment donné, tu te dis, il y a peut-être un bout de conteur à l'intérieur de ce gars-là, quoi.
Ouais. Surtout que les spectacles pour enfants, c'est quelque chose qui est très prisé en ce moment.
Pour enfants, pour les enfants qui ont grandi, mais pour tous les enfants.
On va s'écouter un petit extrait de Stevie Wonder, Isn't She Lovely.
Ah, un de mes héros.
Et oui, comme le temps passe. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune. Comme le temps passe. Et bien dépêchez-vous de rester jeune.
Isn't She Lovely, Stevie Wonder, un artiste que tu as vu beaucoup plus de fois que Léo Ferré en scène, je crois.
Oui, je l'ai vu 5 fois.
5 fois,
Stevie Wonder.
Waouh.
Ouais, je l'ai vu, c'était mon premier concert. C'était un mardi, on était en 84, et puis j'étais rue de Rennes, et puis je vois qu'il reste encore des places. J'appelle ma mère, je te prends une place, et puis on est allé voir le concert. C'est la première fois
c'était
que je voyais ça. C'était à Bercy.
Ah oui, enfin,
il paraît que ça a un autre nom maintenant.
Oui.
Là,
l'Accord Arena.
Donc à Bercy.
Voilà.
Et donc, écoute, c'est la première fois. Moi, j'ai été stupéfait de voir le nombre de personnes qui pouvaient se déplacer pour un artiste. Puis là, c'était le gros show. Il y avait plein de musiciens sur scène. C'était vraiment fantastique. Puis c'était comme quasiment 3 heures de show. Et moi, c'est parce qu'à 15 ans, j'écoutais Stevie Wonder que j'ai décidé d'être chanteur aussi, en plus de pianiste, en plus de plein de trucs, comédien et tout. C'est en écoutant Songs in the Key of Life et notamment Isn't She Lovely que j'ai décidé d'être chanteur dans la vie.
Ben c'est magnifique. Merci beaucoup pour le partage, Vincent. Jack Marshall,
oui.
À toi.
Si le flot de sortie laisse parfois désirer, nous vivons un âge d'or de la littérature musicale, avec des récits exceptionnels, ainsi Eddie Barclay et moi, de François Bernheim, ou Cherche Midi.
Oui, un album de souvenirs de François Bernheim, effectivement, un grand auteur, enfin, un grand compositeur de chansons françaises. On sait qu'il a fait des grands succès pour Patricia Cass, et Mio Rifugio pour Richard Cocciante, et puis il s'est occupé de tant d'artistes. Il a commencé avec les Roche-Martin, les sœurs Sanson.
Ouais.
Il a écrit pour Brigitte Bardot, il s'occupait des Poppies. C'est lui qui a produit les deux premiers albums de Renaud. François Bernheim,
c'est pas
n'importe qui.
On m'a signifié Léo Ferré, on met le paquet. Tire-moi la gamba afin que je puisse tire-moi la gamba bien m'attraquer. À Europe 1, et chez Fontaine, et chez Laurier, et chez Dufresne, et moi pas fou, du tac au tac, j'ai dit mon loup, v'là ta matraque. Yes, yes. Bombay, tirame la gamba, tirame la gamba, yes, yes. Bombay, tirame la gamba sur le travail. Monsieur Barclay m'a dit mon cher Léo Ferré, ça ne vaut pas cher. Tirame la gamba, ben si tu me fais, tirame la gamba, un beau succès. Pour Europe 1, et pour Fontaine, et pour Laurier, et pour Dufresne, je suis pas salaud, et pour la peine, je vendrai Rimbaud avec Verlaine. Yes, but can I? Tirame la gamba, tirame la gamba, yes, but can I? Tirame la gamba, ma fin de bail, ma fin de bail, ouais.
Et oui, comme le temps passe. Dépêchez-vous de rester jeune.
Monsieur Barclay, on reste dans la ligne de l'émission avec Léo Ferré. Une chanson caustique et un peu cynique de la part de Léo au sujet de Monsieur Barclay. Monsieur Barclay m'a signifié. On arrive tout doucement, on voit au large, au loin, les côtes montréalaises. Déjà, arrive le moment de parler de l'agenda. Stéphanie Sandoz, l'album Puzzle est toujours en écoute avec tous les autres sur toutes les plateformes. On a le single Love Will Find a Way
qui vient de sortir partout
prémisse à l'album qu'on attend pour la rentrée.
Oui, exactement.
Également, puis on rappelle que tu as sorti deux livres aussi qu'on peut trouver en auto-édition sur internet.
De glace, voilà. Et va voir Didier.
Et voilà.
Et puis surtout rendez-vous le 15 octobre.
Et oui, mais bien sûr. Le 15 octobre au théâtre de la Tour Eiffel, et puis tu seras aussi, tu nous as dit, le 20 septembre à Saint-Raphaël.
Exactement.
Entre autres.
À l'usine.
Voilà, l'usine. Mais qui est une salle de concert.
Exactement.
Tu ne vas pas là-bas travailler.
Non.
Vincent Tardreau, Salisbury Hotel, qui est toujours en écoute sur YouTube, sur vincenttardreau.com, sur...
bientôt vincenttardreau.com.
Bientôt, Piano Connexion, toutes les créations sur les cours.
Oui.
De piano,
oui,
sur Piano Connexion.
Absolument.
On trouve ça sans aucun problème sur YouTube.
Sur le poteau.
Christine Mafalda.
Oui, alors pour les amateurs de courts-métrages, je vous signale le festival Incourtournable qui a lieu le vendredi 27 juin à 20h30 au cinéma MacMahon qui se trouve rue MacMahon et au métro ligne 1 Charles de Gaulle Étoile, en présence des équipes avec qui vous pourrez échanger après la séance.
Formidable. Donc
voilà, un court tournable qui a lieu d'ailleurs, je vous signale, 4 fois par an.
Ok, très bien. Moi, j'en profite pour recommander la lecture de Après l'incendie, un livre que j'ai découvert d'un nouvel auteur qui s'appelle Laurent Gagnepain, qui est un livre vraiment à découvrir, si vous adorez l'univers de Houellebecq, ben vous adorerez Après l'incendie. On se retrouve tous ensemble pour la dernière de la saison, le mardi 1er juillet. Et cette fois-ci, nous aurons le plaisir d'accueillir et de retrouver notre ami Jackie Jakubowicz. Club Dorothée, Platine 45, Les Enfants du Rock. Et je suis sûr qu'on va faire une très belle émission festive, estivale, pleine de joie, de bonne humeur, de bonne musique. Ce fut un plaisir, Stéphanie, merci encore.
Avec plaisir,
ce fut
merci.
Un plaisir, Vincent Tardreau, Vincent
merci.
Turban,
merci.
Jack Marshall, Mafalda, merci à vous.
Bonne semaine à tous.
On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, n'oubliez pas de rester jeune.
Dépêchez-vous de rester jeune.